Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Oh que ça fait du bien, quel plaisir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ravi d'être avec vous, ça y est, c'est reparti, hein, c'est la rentrée et on sera là avec vous jusqu'en juillet 2023. On va vous offrir tout plein de belles choses au cours de cette saison. Alors, j'ai déjà une partie d'équipe qui est avec moi pour cette première émission de la saison. Je vais commencer avec lui, a déjà repris le boulot depuis longtemps. Hein, il nous commande des matchs sur Twitter du Paris Atlético. C'est à vous.
Salut,
bonsoir
Philippe.
À vous. Ça va bien, pleine forme?
Ça va et toi?
T'as passé de bonnes vacances? La mer, la plage, ça a été.
Ouais, on est resté sur Paris, nous, mais c'est pas grave.
Ouais,
hein. Je vois que ça taquine déjà, Philippe.
Ouais, non, mais c'est vrai. Lui aussi a passé quelques vacances, mais il n'a rien raté, notamment du dernier Tour de France. C'est Thomas Louis. Salut Thomas Louis.
Ça va Philippe?
Ça va, pleine forme?
Bah, en pleine forme. Ouais. On a regardé toutes les compétitions internationales. Ouais. Enfin, en tout cas, on a essayé.
Ouais.
On verra bien.
Ouais. Et puis, il est avec nous aussi. Lui aussi, il a repris le boulot depuis un moment. Ici, il suit tout du basket. C'est Valentin Son. Bonsoir Valentin.
Ça va Philippe.
Voilà, ça va. Alors, je voulais vous dire aussi qu'on aura donc une première partie. On va revenir donc sur tous les temps forts de l'actu sportive de cet été. Ensuite, on a en principe le FC Viking, un club du Paris 4e qui devrait donc être présent dans nos studios. On attend d'un moment à l'autre un de ses représentants. Et puis naturellement, fidèle aux bonnes habitudes, on retrouvera la partie foot en fin d'émission. On aura notre ami Stéphane Dezenclos, coup de gueule. Et puis on vous a préparé un petit cadeau, hein, une interview de Rai, l'icône du Paris Saint-Germain, celui qui a été l'idole du PSG durant les années 90. On était parti en vous faisant tout plein de cadeaux à travers donc nos émissions, notamment sur la journée olympique, les interviews qu'on vous avait diffusées, tout ça au mois de juillet. Vous voyez, on est généreux. On va continuer, puis on va saluer Jason. Si on l'avait quitté
l'artiste.
Le 4 juillet, c'était son anniversaire.
Ouais.
Il a continué à le fêter pendant ces deux mois de vacances. Allez, donc, on commence avec l'actu sportive de cet été. Très brièvement, qu'est-ce qui vous a marqué cet été, à tour de rôle?
Moi, honnêtement, c'est le Tour de France.
Oui, bien sûr. Quel Tour de France,
années,
on s'est régalé. Hein.
Des années que je ne me suis pas autant régalé en regardant le Tour de France. Je sais que ça n'excite pas tout le monde autour de cette table.
C'est pas grave.
Mais, mais en tout cas, pour les fans, je pense qu'ils se sont tous régalés. Donc voilà.
Valentin, qu'est-ce qui t'a
Moi, je dirais le championnat de Formule 1. Avec
Verstappen.
Verstappen imbattable pour le moment, mais avec des améliorations qui vraiment est très impressionnant à regarder. Et puis des voitures qui se suivent de plus en plus, donc c'est très intéressant à voir.
D'accord. Et toi, Abou, alors, l'équipe de France de foot féminine?
Philippe très taquin en ce début de saison. Hein. Moi, ce qui m'a marqué, c'est Tudor sifflé lors de la première journée à l'Olympique de Marseille.
D'accord. Ok, on en parlera lorsqu'on fera le point foot. Alors, effectivement, on s'était quitté, je l'ai dit, le 4 juillet dernier. Hein, on vous avait passé, donc, comme je l'ai dit, tout plein d'interviews sur la journée olympique. Et puis, on avait aussi parlé du Tour de France. C'était le début du Tour qui était parti donc, du Danemark. Le Tour est arrivé ensuite en France. Et donc, comme le Tour est parti du Danemark, eh ben on a eu un Danois qui l'a gagné. C'est Vingegaard devant Pogacar, vainqueur en 2020 et 2021. Et Geraint Thomas, troisième, donc vainqueur en 2018. Pogacar, il gagne quand même le maillot blanc. Le maillot à poids, c'est Vingegaard, celui qui avait été maillot jaune. Doublé maillot vert et puis combiné pour Van Aert. Une seule victoire d'étape française sur ce Tour de France, deux jours avant l'arrivée à Cahors. Et puis, ça a été le tour le plus rapide de l'histoire, 42,026 km/h de moyenne. Thomas Louis, c'est vrai qu'on s'est régalé sur ce Tour de France.
Ah oui, on s'est régalé, mais on a aussi, comme tu le dis, on a senti une certaine pression qui a fait que ça a roulé beaucoup plus vite durant toute cette campagne. Comme tu l'as dit, un très beau Tour de France avec la suprématie de Wout Van Aert et Vingegaard qui ont réussi à essouffler la pépite Pogacar. C'est vrai que c'était un très beau mano à mano, un début de Tour de France très bien géré par Pogacar qui a eu le maillot jaune assez vite, mais Vingegaard qui sur l'étape, c'était sur quelle étape qu'il le reprend? C'est l'une des plus belles, je crois que c'est...
C'est le Granon.
Voilà, sur le Granon. Première fois qu'il montait le Granon, ça ne nous a pas déçus parce que l'étape
depuis
était vraiment
86,
magnifique.
Ils n'avaient pas monté le Granon. Ouais.
Et pas déçu. Franchement, Vingegaard qui a été avec les cuisses, qui a tout surmonté les attaques de Pogacar dans la dernière semaine. Et Van Aert vraiment resplendissant.
Très bien, alors on va repartir tout à l'heure, on va saluer Eladji. Lui, je sais qu'il déjà, il prépare ses fiches sur le mondial, ça va. Eladji, t'as passé de bonnes
Salut
vacances.
Salut Philippe, ouais,
j'ai terminé au boulot.
Je me suis remis au boulot fort.
C'est, très bien. Alors, justement, sur le Tour de France, on va quand même rappeler que David Gaudu est 5e, Bardet 7e, Pinot 15e. Une seule victoire d'étape pour les Français. On a bien cru qu'on allait rentrer bredouille comme en 99. Hein. Et puis, je voulais dire que le classement par équipe, ce sont les Ineos Grenadiers qui se sont donc imposés. Et puis, à Cahors, finalement, Laporte, le Français, donc, eh bien, s'est imposé. Tactiquement, il a bien joué le coup. Hein.
Mais c'est vrai que la victoire de Laporte, c'était quand même un grand ouf de soulagement pour tous les Français, je pense, à la fin de ce Tour de France. En plus, une belle étape. Franchement... C'était une belle attaque dans le final, je me souviens, on s'y attendait pas trop. Et oui, comme tu as dit, c'est de la tactique, il y en a aussi dans le vélo. Et franchement, c'était magnifique. Et bah moi, j'ai aussi noté des choses sur Gaudu et Bardet.
Oui.
On va commencer par Bardet, qui est quand même, malgré ses beaux jours, comme on a vu au Granon, quand même assez décevant sur la fin de ce Tour de France. Je trouve qu'il était dans une assez bonne progression ces dernières années. Et là, bon, on s'attendait peut-être à mieux. Mais j'ai aussi voulu parler de Gaudu, qui apporte ce renouveau à la FDJ après Thibaut Pinot. Et c'est très intéressant dans la manière dont il court, car c'est pas un coureur comme Thibaut Pinot qui peut attaquer souvent, qui est vraiment
train,
un bon puncher. Voilà. Il se fait décrocher en début de montée et il rattrape au train. Donc c'est un autre type de cyclisme, mais c'est tout aussi beau à voir.
Ouais, il nous reste un petit palier à franchir, ça va être le problème pour ces prochaines années.
Très jeune, David Gaudu, qui c'est la deuxième année où il est vraiment le leader au général de la FDJ, mais il y a de la progression, on le sent, et il y a surtout une très belle équipe autour de lui. Je pense qu'on ne peut pas parler de ce Tour de France sans parler de Valentin Madouas, qui a été un coéquipier exemplaire.
Il fait 11e du tout.
Ouais, franchement, un gros coup de chapeau à Valentin Madouas, qui a impressionné, je pense, tout le monde sur ce Tour de France, limite meilleur que son leader dans certaines montées.
Oui, alors c'est vrai qu'en plus, c'est une génération qui est sympa, parce que c'est vrai que à certaines courses de vélo, on s'est ennuyé. Là, ça a été un tour fabuleux, chacun s'est attaqué à tour de rôle, hein. Ça s'est joué à la pédale. Vingegaard, donc finalement, s'impose, était plus fort que Pogacar, mais on a une génération nouvelle qui attaque. On parlait de Van Aert, qui a fait un travail énorme, qui est un coureur complet, qui est capable de un jour gagner le Tour de France, parce que vraiment, il est complet, à condition de ne pas se mettre au service des autres. On a vu, et ça c'est aussi un des événements de l'été, Evenepoel qui a gagné hier le Tour d'Espagne. Il avait gagné Liège, Bastogne de Liège et puis la classique de Saint-Sébastien. Bon, malgré les abandons de Roglic et d'Alaphilippe sur ce Tour d'Espagne, il y a une génération et ça promet du beau spectacle pour les prochaines années et des mecs sympas en plus.
Et c'est du beau cyclisme, comme tu l'as dit, c'est vraiment du beau cyclisme, on ne s'ennuie pas. C'est vrai que sur la fin des années Froome, on était un
petit
peu...
C'est pas formaté,
bon,
quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais. Maintenant, là, on est à chaque étape, tu te régales, tu prends tes pop-corns et tu te dis, bon, on va se régaler, on ne sait pas qui va attaquer, on ne sait pas qui va aller chercher cette belle victoire. Et je ne sais pas si tu veux qu'on passe directement sur la Vuelta, parce que j'ai pas mal de choses à dire
là-dessus. Vas-y, on en parlait un peu.
Déjà, la Vuelta, c'est quand même une grosse déception côté français, parce que c'est... c'est la première fois depuis 13 ans où il n'y a pas eu de victoire française.
Ah oui,
lors du Tour
zéro
d'Espagne.
Pointé là.
Voilà, zéro pointé, mais quand même, on est obligé de parler de Mollard, qui a quand même eu, Rudy Mollard, qui a eu le maillot rouge pendant une étape, je crois. Et il l'avait déjà eu en 2018. C'est à souligner quand même, le classique espagnol qui lui sourit bien. Mais c'est vrai que Thibaut Pinot fait, je crois, une fois troisième, souvent dans les échappées, mais... lui, il l'a dit en interview après, il est quand même content de son niveau, mais on attend toujours plus de cette pépite française.
Et puis Roglic qui a abandonné, comme au Tour de France, il est tombé, la malchance. Décidément, c'est pas son année, même s'il a gagné Paris-Nice, le Dauphiné.
Ouais, c'est pas son année, mais c'est surtout pas l'année de Julien Alaphilippe.
Oui, alors justement, lui, il joue que de malheur, il n'était pas au Tour de France. Hein, il a abandonné sur chute au Tour d'Espagne. Il est beaucoup tombé cette année, c'est vraiment pas son année. Est-ce qu'il vaudrait peut-être mieux pas qu'il arrête clairement la saison ?
Non. Thomas Vauclair, elle l'a dit il y a quelques jours dans une interview, il se sent très confiant quant au retour de son champion le 25 septembre, pour les championnats du monde. Donc, et même ses coéquipiers, plusieurs coéquipiers de l'équipe de France ont pris part et se sont dit qu'il sera bien là, parce que juste après son abandon sur la Vuelta, c'était plutôt par précaution, car il n'avait qu'une simple luxation de l'épaule et il a repris l'entraînement 3 jours après.
Ça t'a plu, Valentin, le Tour de France, non ? Ça t'a pas trop ?
C'est
pas
trop ton truc de vélo ? Moi, je suis depuis 2-3 ans, ouais. Un petit peu plus.
Ouais. Et ouais. C'est vrai que c'est plus spectaculaire depuis 2-3 ans.
Ouais, hein. Ouais, c'est... Ouais. Mais de ce que m'a expliqué mon père, qui est un grand fan du Tour de France, ces dernières années, et surtout cette année, ça a été particulièrement intéressant à suivre. Et... Ouais. Non, franchement, c'était très intéressant.
À bout le Tour de France, toi, ça t'intéresse pas, si ?
Non, moi, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'arrive pas à y accrocher, j'arrive pas à regarder, j'arrive pas. Après, c'est comme tout, hein, c'est de l'habitude. C'est comme le tennis. Moi, le tennis, au début, ça m'intéressait pas du tout, et à force de regarder, ça finit par rentrer. Mm-hmm. Donc, le Tour de France, on va s'y mettre.
Elle a dit, quel a été l'événement fort pour toi sur le plan sportif cet été ? Il y a un événement qui t'a marqué plus qu'un autre ?
Un événement qui m'a marqué,
sportivement, un exploit.
Sportivement, un exploit.
Djokovic, Kevin Mayer.
Je regarde du tennis, mais
foot,
on dirait plus le mercato, mercato.
Ouais.
Lewandowski qui va au Barça.
Ah oui. Oui. Voilà, on va en parler, revenir, ça c'est énorme. Reparler, et puis le triplé déjà, avec 3 clubs différents.
C'est ça, c'est déjà ça.
Très bien. Alors, donc ça c'était pour les hommes. Et puis, il y a eu une grande nouveauté cette année, c'est le Tour de France féminin. Thomas Louis, tu avais été en conférence de presse sur la FDJ quelques semaines avant le départ du Tour. Alors là, il y a eu moins de suspense. Hein. C'est une Hollandaise, Van Vleuten, qui s'est imposée devant Vollering, une autre Hollandaise, donc à 3,48. Et puis, la Donna, une Polonaise, à 6,35. Là aussi, une Française qui termine 4e, Juliette Labou. L'autre Française, Erita Music, est 8e. Coralie Demey, 24e. Mais plus que ça, c'est le fait que il va falloir s'habituer à retrouver un Tour de France féminin après 3 semaines de grande boucle. On va quand même rappeler juste que Vingegaard s'est imposé avec 2,43 sur Pogacar et 7,22 sur Thomas. Donc il n'y avait pas photo, les écarts étaient là. Donc il va falloir s'habituer à maintenant prolonger, j'allais dire, d'une semaine supplémentaire. La grande fête du vélo au mois de juillet.
Il faut aussi se rappeler que c'était la première édition professionnelle. Il avait déjà existé des émissions semi-professionnelles dans les années 70, mais c'est vrai que là c'était une grande fête pour le sport féminin. C'était très intéressant à regarder. Et en plus, petite anecdote, quand j'ai été à la conférence de presse de la FDJ, j'ai pu interviewer la championne du Danemark qui s'appelle, Cécile Uttrup Ludwige, qui a gagné une étape de montagne sur ce Tour de France.
C'est bien, t'es une nécreux.
Donc voilà, je pourrais revendre cette interview. Ouais. Non, mais plus sérieusement, c'était tout aussi spectaculaire qu'on pourrait croire que chez les hommes, c'est toujours plus spectaculaire, mais là, pas du tout. Et il faut le rappeler aussi que c'est qu'une semaine. Le Tour féminin, c'est peut-être voué à évoluer.
Alors c'est parti de Paris, c'est arrivé à la super planche des belles filles. C'est parti le jour de l'arrivée du Tour de France, le 24 juillet, les féminines, elles, ont fait leur première étape quelques heures avant.
C'est ça, c'est ça. Et moi je trouve ça quand même assez symbolique de faire une arrivée d'un grand tour de cyclisme en montagne. Pourquoi pas sur le Tour de France masculin ? C'est vrai qu'on a l'habitude des Champs-Élysées. En 2024, ça devrait être à Nice. Pourquoi pas changer ça ? Pourquoi pas arriver à l'Alpe d'Huez ? Pourquoi pas arriver au Granon ?
Ça arrivera. Non, c'est seulement l'habitude et le hasard du calendrier a très bien fait les choses. Parce que cette semaine de Tour de France féminin, il est tombé avec la dernière semaine de l'Euro de foot.
Eh oui.
Donc le sport féminin a été complètement
à l'honneur. Oui, non, mais c'est vrai que c'était à l'honneur et nos Français nous ont pas déçus, nos Françaises nous ont pas déçus lors de ce Tour de France. Elles ont essayé.
Coralie Domaine notamment.
Oui, c'est vrai. De très belles attaques. Ils ont pas été passifs. C'est ça qu'on demande. Nous, on veut du spectacle. Les victoires, c'est toujours mieux, mais le spectacle, quand même, quand t'es spectateur, on a envie de voir ça. Et on a été servi, comme tu l'as dit, avec Juliette Labou, 7e de la Team B DSM. Un très beau Tour de France première.
Elle est quatrième.
Quatrième, excusez-moi. Première française, pas déçue et un peu déçue pour l'équipe FDJ quand même qui avait annoncé de grosses
ton
ambitions.
Ton équipe fétiche.
Voilà, qui a annoncé de grosses ambitions, qui voulait clairement rentrer avec le maillot jaune sur leur championne danoise, mais qui a fini septième.
Il y a eu quand même beaucoup de chutes chez les femmes et ça a été assez critiqué, assez controversé, peut-être à tort d'ailleurs.
Bien sûr que c'est à tort car c'est un peu ridicule de réduire le Tour des femmes à des chutes alors qu'il y a eu aussi beaucoup de spectacles. C'est pas le même sport, c'est comme partout, c'est différent, il faut s'habituer, comme tu le dis, c'est des questions d'habitude. Mais c'est très très encourageant pour le sport féminin en tout cas.
En tout cas, donc un bel été de vélo, hein. Et puis bah, on souhaite que ça dure. La prochaine présentation du Tour de France, ce sera le 27 octobre. Ce sera donc au Palais des Congrès, Porte Maillot. Un tour qui partira du Pays Basque, aura une configuration différente. Mais enfin, bon, le tour reste vraiment le grand feuilleton sportif de l'été.
Ah oui, c'est magnifique et surtout qu'on a de très belles années devant nous avec ce duo Pogacar-Vingegaard et comme tu l'as dit, il y a beaucoup de jeunes pépites qui arrivent dans le monde du vélo.
Oui, Evenepoel, Van Aert, Van Der Poel en espérant qu'ils souhaitent donc
qu'ils
puissent revenir à son meilleur niveau, puis des Français donc qui progressent. Bon, il y avait un deuxième événement pendant le Tour de France, c'était Wimbledon, le tennis avec Djokovic qui a réalisé donc un 21e tournoi du Grand Chelem. Il s'est imposé devant Kyrgios, donc le Grec, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6. 21e tournoi du Grand Chelem pour cet énorme champion.
Il revient à une longueur du grand champion espagnol Rafael Nadal qui 22. Est à 22 et Federer 3e à 20. C'est vrai, belle victoire, 7e trophée de Wimbledon pour Djokovic. Un tournoi maîtrisé de A à Z. Moi, j'aimerais bien quand même souligner la très belle performance de Kyrgios qui arrive en finale. Voilà, un très beau tournoi, du spectacle encore une fois. Et Djokovic, Wimbledon, c'est chez lui.
Ça vous inspire un commentaire, Djokovic, Djokovic 21e tournoi du Grand Chelem.
Quand on voit Rafael Nadal qui a de plus en plus de mal à jouer à son plus haut niveau, à se faire des infiltrations, et voir Djokovic qui est vraiment qui arrive à maîtriser ses tournois de A à Z, il va vite le rattraper et ça va vite se battre. Et Djokovic a été juste intouchable et c'est Djokovic quoi. Mm-hmm.
J'aime beaucoup Valentin, mais attention quand même quand on parle de Rafael Nadal. Doucement, Valentin, mon chouchou. Ouais. On parle pas comme ça du champion, on parle pas comme ça du Mallorcain. On parle pas comme ça de Rafael Nadal. Moi je pense que Rafael Nadal il est loin d'être fini. Je pense que les deux vont nous offrir encore deux trois belles années. Ils ont encore 2-3 belles années devant eux pour eux.
Nadal, ça va être compliqué quand même.
Mais Nadal, on disait la même chose après Roland Garros. Après Roland Garros, on le voyait même prendre sa retraite sur ce grand chelem et nous dire au revoir. Et pourtant, il était là. Moi j'ai confiance en Nadal. Après, il va falloir faire attention. Il y a un autre Espagnol là qui pousse derrière.
Alcaraz. Alors, on va en parler. Hein. Alcaraz, il a effectivement gagné donc hier son premier tournoi du Grand Chelem. Il a battu Rude qui avait été finaliste sur Roland Garros. Donc 6-4, 2-6, 7-6, 6-3. Voilà, la deuxième pépite espagnole dont on parlait.
C'est vrai. Ça devient le premier joueur de l'histoire, enfin le joueur le plus jeune de l'histoire à être premier mondial.
Et les premiers mondiaux ce matin.
C'est vrai que du coup il y a eu l'actualisation après l'US Open, très belle victoire là, même la finale et la demi-finale étaient tellement c'était du miel à regarder, c'était magnifique. Clairement Carlos Alcaraz c'est une machine, vraiment honnêtement depuis Nadal. J'ai rarement vu un jeune être aussi impressionnant. Peut-être avec l'arrivée de Medvedev, je m'étais dit à ce moment-là ok. Lui, c'est pas n'importe qui, mais c'est vrai qu'Alcaraz, ce qui diffère aussi de Rafael Nadal, c'est qu'il est fort partout. Partout. Il a une capacité d'adaptation à chacun de ses adversaires. Il a un mental. J'ai vu un article de l'équipe où il parlait de son mental, mais c'est vrai qu'il est très jeune et il a le mental d'un trentenaire. On a l'impression que ça fait 20 ans qu'il joue au tennis et c'est très impressionnant.
Tu parlais d'Alcaraz. Hein.
Oui, d'Alcaraz.
Oui. Donc, effectivement, ça promet, Alcaraz. Ou alors, ça arrive peut-être un météore comme certains l'ont été. Hein,
dans le tennis. Comme le disait Thomas Louis, c'est vrai que s'adapter à chaque adversaire, chaque surface, et puis être aussi performant et encore des records de précocité comme il fait, Carlos Alcaraz, c'est. Quand vous parlez sur lui, quand vous regardez un match, vous voyez, il n'y a pas photo. Vraiment, il est vraiment exceptionnel pour son âge.
Puis, il a de la folie dans son jeu.
Oui. Et puis, le contrôle mental qu'il a de ne pas craquer dans des moments où il pourrait vraiment se laisser avoir dans des erreurs de jeunesse. Donc, c'est pas mal.
Ça a été un bel été aussi pour le tennis. Alors, on va quand même dire que chez les femmes, Rybanika, la Kazakh, a battu une Tunisienne, Zaber, 3-6, 6-2, 6-2. Ça a été l'événement. Et Zaber, elle s'est retrouvée en finale, battue par la vainqueur polonaise de Roland Garros, Sek en 2-7, 6-2, 7-6. Elle domine vraiment le tennis mondial. Elle est numéro 1 après sa victoire de Roland Garros et hier à Flushing Meadows.
Mais c'est vrai que chez les femmes, c'est souvent comme ça. Si on regarde bien sur les dernières années, je sais que tu veux parler de Serena Williams juste après et c'est normal.
C'est normal. 23 tournois du Grand Chelem.
Mais on a souvent, très très souvent, vu des femmes plafonner au. enfin pas plafonner du tout, en fait exploser et ne jamais être rattrapé par leurs concurrentes. Et là, bah, c'est bien parti pour faire de très belles années pour la Polonaise.
Ouais, alors elle s'est un peu plantée sur Wimbledon, c'est en sec. Par contre, elle s'est bien rattrapée sur Flushing Meadows. Hein.
Ah, ouais. Oui.
Mmh. Et Zabeur, quand même, finaliste deux fois quand même. Hein.
Première africaine de seconde mondiale quand même.
C'est
ce
ça,
matin,
c'est ça, c'est important.
Numéro 2 mondial Jabeur, première africaine à se classer à ce niveau-là.
Oui, oui.
Donc,
oui, c'est pour ça, je voulais en parler. Hein. C'était une Tunisienne. Donc en finale sur Wimbledon, en finale sur Flushing Meadows, elle a été accueillie comme une star chez elle là-bas.
Ah ouais, franchement, et c'est une formidable joueuse. Après, c'est dommage. C'est un peu comme, elle me fait penser un peu à Ruud. C'est un peu dommage de finale, de défaite.
Ouais, à lui, voilà. Bah, Norvégien, finaliste.
Et sur les mêmes compétitions en plus.
Et Meadow, ouais, ouais.
Sur les mêmes compétitions, donc c'est un peu dommage. Mais elle aussi, c'est une très belle joueuse de tennis.
Bon, je voulais avant quand même de parler de Williams, de parler de Caroline Garcia, quand même, demi-finale. Elle est en pleine bourre, Caroline.
Très plus
c'est une fille que j'aime bien. Donc,
C'est vrai, très sympathique en interview. On la voit souvent très souriante, même sur le court.
Elle se prend pas au sérieux, c'est bien.
Je suis d'accord avec toi. Très beau tournoi, encore une fois. Elle nous déçoit pas et on aimerait qu'elle soit tout le temps à ce niveau. Ça fait plaisir de voir des Françaises aussi fortes, tout simplement.
Oui, parce qu'il faut quand même le dire, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Sinon, le restant,
que ce soit
sur Roland Garros, sur Wimbledon, sur Flushing Meadows, passer ce cap des huitièmes de finale, ça devient compliqué. Hein.
Ça devient compliqué, je suis d'accord.
Ouais, hein, pour le tennis tennis français. Et puis naturellement, donc, fin de carrière pour Serena Williams, 23 tournois du Grand Chelem. Hein. Alors on disait que Nadal en a 22, Djokovic 21 et Federer 20. Elle, c'est 23 pour les femmes. Je crois qu'elle ne battra pas donc Margaret Court qui doit être à 24. Mais
c'est avant l'ère Open.
Voilà, c'est ça.
C'est pour ça que maintenant... elle détient le record homme-femme confondu du plus grand chelem. Bon, après,
mais ça sera une immense championne. Hein.
C'est ça. Ah oui, ça restera dans les annales. Clairement, c'est l'histoire d'une femme, c'est l'histoire du sport.
Et puis, honnêtement, un profil atypique quand même.
Eh ben oui. Oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup de très beaux reportages sur cette grande femme du sport. Et je vous conseille d'aller checker ça.
Juste avant, moi, j'ai regardé là il n'y a pas très longtemps la méthode Williams.
Été.
Et on parle beaucoup de Serena.
Tu vois que tu as travaillé cet été.
Oui, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de Serena. Et elle-même, elle le dit sur son dernier match. Ouais. Elle le dit, il n'y aurait pas de Serena sans Vénus.
Oui.
Et je pense qu'il faut rendre hommage à ces
deux grandes femmes du sport, en fait. À sa sœur.
Je pense vraiment que c'est un duo. Serena a été tellement haute que parfois on oublie Vénus.
Plus haute que Vénus, quand même.
Ouais, mais beaucoup plus haute que Vénus. Mais c'est ce que je dis. Et parfois, on oublie Vénus, mais Vénus, c'est quand même la première femme d'Afrique, la première femme
afro-américaine
à être numéro une mondiale. Donc, c'est
grand chelem. Et puis, son père l'a toujours dit, on le voit dans le film, Richard Williams, interprété par Will Smith, qui vient lui dire à Serena qui regarde Vénus en train de réussir son rêve en quelque sorte. Vénus sera première mondiale, mais toi, tu seras la meilleure des autres. Tu seras au-dessus de tout le monde. Et ça s'est passé, 23 contre 7 grand chelem. Mais c'est quand même deux sœurs afro-américaines au tennis.
Issues de milieux
favorisés et tout, c'est quand même une énorme réussite.
Elles en ont inspiré des centaines de milliers de petites filles maintenant qui veulent devenir, qui veulent arriver à ce niveau-là.
Il n'y a pas une seule pub Nike sans Serena ou sans
pour Venus, tu disais 7 grands chelems, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueuses de tennis.
Ah oui,
il y en a beaucoup qui vont en avoir un déjà.
Oui, déjà nos Français.
C'est pas mal.
Ah, c'est sûr que. Ouais, ouais.
Et j'avais une stat qui est quand même exceptionnelle que j'ai vu tout à l'heure, c'est que Serena Williams a passé 6 ans d'affilée première mondiale.
Ah oui. Ouais, oui.
C'est. Ah oui, on parlait justement des c'est n'importe quoi.
On parlait d'Alcaraz qui est nouvellement premier mondial, mais c'est vrai que c'est une belle stat pour Serena Williams. Ouais.
Donc voilà, c'est tout. C'était.
Voilà. Bon autre événement, c'était l'athlétisme. Hein. C'était pendant le Tour de France, des mondiaux qui avaient été reportés l'année dernière à cause des Jeux. Bah là aussi, une seule médaille d'or. Bon, quelle médaille d'or ? C'est Kevin Mayer en décathlon, hein, comme en 2017. Mais c'est vrai qu'une nouvelle fois, on a échappé belle. On aurait pu revenir avec un 0 pointé. On n'a pas le sentiment que l'athlétisme français progresse beaucoup, surtout après les Jeux européens ou au championnat d'Europe. Donc, elle a donc obtenu 9 médailles, 4 argent, 5 bronzes, c'est-à-dire un 0 pointé.
C'est décevant. Oui. Honnêtement, à 2 ans des JO chez nous, à Paris, c'est décevant et c'est même apeurant un petit peu. On a pas envie de faire un zéro pointé au JO, même s'il y aura beaucoup d'autres disciplines pour relever ça. Mais c'est vrai que l'athlétisme, c'est quand même
ça tourne autour de quelques individualités. C'est tout. Lavillenie, quand il ne se plante pas, Mayer, Martino Lagarde, voilà. Et puis c'est tout quoi. Et ça dure depuis quelques années quoi.
C'est vrai qu'on Et on en parlait, et je pense que l'année dernière, on l'a bien vu quand on a eu pas mal de personnes en rapport avec les JO, c'est qu'on a l'impression qu'il faut réimplanter l'amour du sport en France, et ça se voit aujourd'hui parce qu'il y a très peu de grands champions, à part dans le football bien évidemment, mais très peu de gigantesques champions qui sortent de France, et c'est
triste. Ils sont obligés de s'exporter comme les joueurs NBA, comme Evan Fournier qui reprenait récemment quelques mots de la maire de Paris, ou même... d'Emmanuel Macron qui voulait faire pour les JO la capitale du sport mondial. Il disait qu'il fallait déjà implanter dès le plus jeune âge le sport à l'école, mettre de plus en plus d'argent, comme Teddy Riner qui dit qu'il n'a pas été un grand champion grâce à la France, mais grâce à ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté des autres pays.
L'athlétisme qui est en retrait depuis quelques années.
Ouais, moi je suis d'accord pour réimplanter le sport, mais moi je dirais même pas qu'il faut réimplanter le sport en France, c'est surtout ce genre de sport-là en fait. C'est vraiment le tennis, l'athlétisme, c'est sur ce genre de sport, je pense qu'il faut aller chercher un autre public qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Et vraiment, on a de la chance quand même d'être dans un pays fait de multiples diversités. Ouais. Donc vraiment d'aller piocher un peu partout et pas de dire que le football appartient à une certaine catégorie, l'athlétisme à une certaine catégorie et le tennis à une autre catégorie. Il faut vraiment créer de la mixité dans ces sports-là pour en sortir grandi.
Alors si l'athlétisme n'avance pas, il y a un sport quand même qui va mieux, qui se reconstruit et qui, je pense, va retrouver une belle génération, c'est la natation, puisque la natation a eu 3 médailles d'or, 8 médailles d'argent et 10 médailles de bronze aux championnats d'Europe, hein, aux Jeux européens. Ça fait un total de 21 médailles. On va se rappeler qu'au Mondiaux, elle avait eu 11 médailles avec 2 or, 7 argent, 2 bronze et surtout les 2 titres de Léon Marchand. Donc ça, c'est bien. La natation est en train de retrouver une belle génération.
Mais c'est vrai que ça nous rappelle les belles époques de la natation française il y a une dizaine d'années. Ouais. Je m'y connais pas très bien, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir de belles victoires françaises.
Oui, et puis on a vu Camille Lacour, nous, à la journée olympique. Hein.
Oui.
Ouais, donc type sympa, donc voilà.
Très sympa.
Ouais, ouais. La natation, donc c'est très bien que ce soit un sport qui revienne au premier plan. Par contre, ça va mieux pour le triathlon. Le triathlon qui a 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze, avec un triplé chez les hommes, hein, qui ont terminé aux 3 premières places, notamment avec la victoire de Léo Bergère. Et puis aussi, où on peut être aussi optimiste, c'est le cyclisme sur piste, avec 6 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Ça fait un total de 15 avant les championnats du monde qui se dérouleront à Saint-Quentin en Yvelines. Bon, là aussi, c'est une discipline qui est en train de revenir au premier plan.
Ah bah oui, mais le cyclisme sur route...
Sur piste, là. Hein.
Ah oui, sur piste, excusez-moi. Ouais. C'est parce que j'allais parler de cyclisme sur route. Il y a souvent une plateforme...
Des fois, ils font les deux.
Non,
hein.
C'est ça. Ouais. Une petite plateforme entre les deux. Et on espère que ces champions pourraient peut-être arriver un jour sur cyclisme sur route. Ça pourrait être intéressant.
Cavendish a fait les deux. Wiggins a fait les deux. Il y a des champions. Brian Cocquart fait les deux.
Donc,
il y a des champions. Ça fait un total. Donc, la France termine 4e. 50 médailles tout rond, avec 11 or, 7 argent. 11 médailles d'or, 17 argent et 22 médailles de bronze. Ça tournait simplement autour de 4 sports. Voilà.
Ouais.
Et alors, je ne veux pas oublier aussi le VTT, puisqu'on parlait des féminines. Alors, il y a eu une autre féminine, Pauline Ferrand-Prévost, qui s'est distinguée, puisqu'il y a eu 5 médailles d'or, 4 médailles d'argent et une médaille de bronze aux mondiaux en VTT. Et elle a été double championne du monde en cross-country et en cross-country short track. Donc ça, c'est aussi un beau symbole du sport féminin.
Ah oui, ça fait plaisir. Et si Abou, toi qui n'aimes pas le cyclisme, le VTT, c'est quelque chose qui pourrait te faire kiffer, je le pense.
J'ai déjà vu des performances en plus de Pauline Ferrand-Prévost. Ouais. J'aime bien la gamine, elle est très dynamique. J'avais vu sur l'équipe là il n'y a pas très longtemps. Et après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment des sports auxquels il faut qu'on s'intéresse. Enfin, faut qu'on y amène de l'intérêt. Grâce à l'équipe, on s'intéresse à beaucoup de sports un peu dits mineurs. Enfin, mineurs pas dans le sens physique ou quoi, mais mineurs dans la visibilité. Mais le VTT, franchement, ça a l'air pas mal. C'est très spectaculaire, comme disait Thomas Lui.
Et elle avait terminé 2e au championnat d'Europe en cross-country derrière Loana Lecomte, hein, puisque c'était les championnats du monde de VTT. Hein.
Oui,
voilà, c'était au G. Voilà. Et puis, autre exploit que je voudrais qu'il ne passe pas inaperçu, ce sont le bon comportement de nos escrimeurs et escrimeuses au championnat du monde. Hein, 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze, dont surtout le titre en épée de Romain Cadone, qui a doublé. Hein, il est devenu champion du monde après avoir été champion olympique l'année dernière. On se rappelle les conditions de Romain Cadone. Personne ne l'attendait. Il était remplaçant. Celui qui avait été choisi à le Covid, c'est lui qui va, il est champion olympique et double donc cette année comme champion du monde.
Bah, le sport, c'est souvent
c'est une belle histoire.
Voilà, des belles histoires, des petits poussés, des joueurs pas attendus qui vont remporter les plus belles victoires de leur carrière. Donc c'est très beau à voir, je suis d'accord.
Très bien. Allez, on va marquer la première pause. Et ensuite, on va parler des autres événements. On va parler basket, on va parler volley, on parlera tiens Formule 1. Imagination, flashback, on y va.
On devait pas faire la rentrée dans le grand studio.
Ouais, c'est parfait. Non, c'est
toujours ici. Ouais, j'ai
l'impression. Après, en blanc,
ils m'ont
sympa,
fait
hein.
Faux bon, les mecs, là.
Ah ouais. Ah, j'avais plein de questions à leur poser.
Bah ouais, mais...
Après, moi, ça me va de parler de foot. Hein.
Oui, oui, non, mais c'est pas ça. Mais... Tu le connais pas, il est...
Non, c'est pas vu, c'est pas vu encore.
C'est mon stagiaire. Flashback to the days when the nights were young.
C'est un plaisir hein, d'être avec vous pour cette première émission de la saison. Alors, on a des représentants du FC Viking qui doivent venir. On les attend d'un moment à l'autre. On remonte en tout cas l'été sportif à travers donc tout ce qui s'est passé pendant ce bel été. Puis on aura naturellement la partie foot en dernière émission avec une belle interview de Raïti. Ça fera plaisir à notre ami Elle a dit que ça sera notre cadeau de début de saison, hein, de rentrée. Voilà. Allez, on va passer maintenant au basket et au volley. Alors, on va commencer par le volley. L'équipe de France de volleyball, bah ouais, elle n'a pas confirmé, Valentin, donc son titre olympique. Elle s'est fait sortir par l'Italie, grande nation de volley en quart de finale. L'Italie, donc, championne du monde depuis hier soir.
Effectivement, l'Italie qui, hier soir, a battu la Pologne chez eux.
3-1,
c'est ça. Ouais. C'est ça. Et oui, l'équipe de France qui devait confirmer après son titre de champion olympique, qui n'a pas réussi à aller au bout, qui a été battue par l'Italie en quart en tie-break, 3-7-2. On a senti que l'équipe de volley était en difficulté depuis le début du tournoi, que c'était très poussif, que après le succès au JO, pardon, et en Ligue des Nations, justement, ça a été très compliqué de se remettre dans le bain. Pourtant, on entendait le coach qui disait qu'il y avait une très bonne entente.
Alors,
dans le vestiaire.
Elle a changé d'entraîneur quand même, oui, hein, cette équipe de France.
Le nouvel entraîneur disait que effectivement, il y avait une bonne entente malgré ce changement très abrupt. Oui, tu veux dire quelque chose?
Non, je te laisse finir. Je prends la parole après, t'inquiète.
Ouais. Mais ça a été une revanche un peu pour les Italiens, car ils avaient été battus par l'équipe de France, par exemple d'Andrea Gianni en juillet dernier, 3-0 à l'occasion de la demi-finale de Ligue des Nations, à Bologne, donc devant leur public. Donc ils avaient été un petit peu humiliés, ils l'avaient amer, et ils nous avaient prévenu qu'ils allaient tout faire pour essayer de rebattre l'équipe de France. C'est chose faite. Et l'équipe de France qui espérait décrocher leur première étoile de championne du monde, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est le seul trophée qui manque à leur salle de trophée.
Elle n'a pas fait comme Romain Cannon, elle n'a pas fait le doublé.
Non, et l'Italie, du coup, quatrième titre.
Alors pourtant, ça avait bien commencé, puisque dans son premier tour, elle était sortie en tête de sa phase de poule. Elle avait battu l'Allemagne 3-0, la Slovénie 3-2, le Cameroun 3-0. Elle avait battu le Japon aussi, donc en huitième, un peu plus difficilement 3-2.
Un peu plus difficilement.
Et puis ça s'est arrêté là après, face à l'Italie.
Bah, on sentait une équipe de France qui était très poussive, mais qui avait encore ses armes, ses ressources nécessaires pour aller au bout. Et face à l'Italie, ça a été... de la malchance, des coups de génie qui n'étaient pas présents, des mauvais choix tactiques, et ça a eu raison d'eux, et malheureusement l'Italie a été plus forte.
Et puis l'Italie gagne en Pologne quand même.
Oh aussi, bah, chez eux,
une grande nation de
Pologne,
de volleyball italien
du monde en titre 2014-2018, donc c'est une grosse performance. Ouais.
Après l'équipe de France contre l'Italie, il y a ce tournant au 4e set. Moi j'ai regardé le match sur la chaîne L'Équipe. Il y a ce tournant au 4e set où l'arbitre il voit un porté alors qu'il n'y a pas de portée. Et après c'est à l'appréciation de l'arbitre. Et après il y a ce 5e set aussi où l'Italie surdomine en fait. Ouais. Et il y a ce retour de la France où on se dit peut-être
qu'ils peuvent faire
quelque chose et ils ne le font pas. Mais je pense vraiment que, comme l'a dit Valentin, en fait, l'équipe elle était un peu. Même malgré ce porté. Où il n'y a pas porté, je pense que l'équipe elle était cuite en fait. Elle était.
Oui, puis c'était fini pour eux. C'était relancé quoi.
Ouais, c'est compliqué.
Parce que c'est vrai que l'année dernière, un petit peu comme Romain Cannon, mais enfin c'est la particularité des jeux. Elle n'était pas forcément favorite cette équipe de France de volleyball. Hein. Elle n'avait jamais rien gagné d'important. Elle déjoue les pronostics, elle gagne. Le problème c'est après, c'est de remettre la machine en route.
Ça gagne les JO, la Ligue des Nations, coup sur coup. Peut-être qu'ils soient trop beaux et que malheureusement l'Italie. A eu ce porté qui a été le tournoi
de
match.
Et le départ de Laurenti,
ça a été un gros coup dur pour l'équipe. Ouais.
C'est pas facile.
Ça retourne la hiérarchie, pardon, et ça a été c'est très compliqué après.
Alors, France-Italie, on va le retrouver au basket. Alors là, le basket, équipe de France, championnat d'Europe. Il y a des débuts un petit peu plus compliqués. L'équipe de France a été battue deux fois sur le premier tour par l'Allemagne, 76-63, puis la Slovénie 88-82. Elle a gagné devant la Lituanie, 77-73, la Hongrie, 78-74, et la Bosnie-Herzégovine, 81-68. Elle a donc terminé troisième de sa poule. Elle a joué la Turquie. On a eu très peur. Courte victoire, 87-86 après prolongation.
On a failli
passer à la trappe.
Ah bah, on se voyait déjà retourner chez nous, prendre les billets, c'était fini. C'était une victoire à l'arraché, effectivement, parce qu'il y a eu un troisième quart-temps qui a été très pauvre du côté de l'équipe de France. En panier, en solution, beaucoup de ballons perdus. Depuis le début du tournoi, l'équipe de France tourne quand même à une moyenne de plus de 21 ou 22 ballons perdus par match.
C'est énorme,
et un record. Et un ballon, 5-10 ballons perdus, c'est déjà énorme, mais 20 ballons perdus, c'est impardonnable. Et même s'il y a eu un changement depuis les JO, il y a des cadres qui ne sont pas là, comme Nicolas Batum, il y a quand même Rudy Gobert et Evan Fournier qui sont devenus co-capitaines de l'équipe de France. Et effectivement, le début du tournoi a été très compliqué. On perd dès le début face à l'Allemagne. Ça se joue chez eux, à domicile. Et on perd 25 ballons, je crois, au cours du match. Donc c'est très compliqué. Et là, sur le match face à la Turquie, on n'y croyait plus. Et dans le dernier quart-temps, l'équipe de France revient de très très loin. Et il y a un homme qui a tout changé, c'est Rudy Gobert, le pivot.
Un grand joueur.
Un très très grand joueur. le pivot des Minnesota Timberwolves en NBA, a arraché la prolongation d'une claquette au dernier moment. On s'y attendait plus. Et en prolongation, il a surdominé rebond offensif, rebond défensif, défense. Il a été partout. Et ça s'est fini ouais, sur un 87-86. Et l'équipe de France, du coup, ouais, retrouvera l'Italie qui a réussi à battre la Serbie de Nikola Jokic, qui est MVP NBA en titre en plus. Donc, c'était une grosse performance encore de l'Italie. Donc, à voir. Ouais. Ça se jouera mercredi.
Ouais, c'est mercredi le match. Est-ce que finalement, c'est pas ça aussi la force de cette équipe de France, de se retrouver dos au mur?
Ça a été souvent le cas au JO. On a eu des frayeurs aussi. Ouais, ouais. Et on n'y croyait pas. Et ils ont battu deux fois les États-Unis. Enfin, sur deux tournois différents. Et puis, bah, en finale, malheureusement, ça ne l'a pas fait. Mais quand même, être en finale des JO face aux États-Unis et montrer ce qu'ils savaient faire, ça a été incroyable. Et oui, c'est depuis 2013 qu'on attend un regain d'énergie de l'équipe de France. Il y en a toujours ce petit truc qui manque. On se dit qu'il manque vraiment le joueur en plus, les solutions en plus. Et là, on espère qu'ils atteigneront le premier dernier carré depuis 2013, parce que depuis qu'on a été champion d'Europe, plus rien.
Bon, tu nous donnes des bonnes nouvelles la semaine prochaine.
Hein. Ah bah j'espère que l'équipe de France semaine, va voilà, faire le boulot et oui, arrêter de perdre les ballons surtout.
Voilà, Thomas Louis, le volley, le basket, bon, alors, les équipes de France
plus,
qui...
Plus le basket de mon côté que le volley, malheureusement, j'ai des faiblesses. Le basket, moi ce que je trouve dommage, c'est que c'est une équipe qui marche au mental. Alors, dans les grands matchs, dans les gros moments, ça marche, mais on aimerait une stabilité, une continuité avec cette équipe. Et c'est vrai que, comme l'a dit Valentin, bah, depuis quelques années, c'est assez compliqué, malgré de très grands joueurs français qui marchent très bien en saison régulière. Mais ouais, ça marche un peu trop au mental et ça va marcher dans certains matchs, mais pas tout le temps. Donc ouais, on verra bien.
Abou, le basket, l'équipe de France, elle peut être championne d'Europe malgré tout?
Alors, moi,
malgré
le basket...
tous ces ballons perdus là.
Bah moi, alors moi le basket, je vous mens pas, je suis pas plus que ça. C'est vraiment un sport avec lequel j'ai du mal. Ça va trop vite, ça va trop dans tous les sens. Après, l'équipe de France, j'avais regardé pendant les JO. Ouais. Bah, en fait, comme toujours, quand la France, elle joue, on regarde. Et je leur souhaite, en tout cas, d'aller remporter cette coupe. Et sinon, bah, s'ils ne la remportent pas, ils pourront compter prochainement sur Joel Embiid. Même si je sais que Valentin pense que Joel Embiid ne sera pas sélectionné.
Ça ne se fera pas.
Fais-moi confiance, compliqué. Ça se fera. Et bah, la dernière fois que j'ai dit pour quelqu'un que ça se fera, ça s'est fait.
Bah, moi, j'espère. C'est un énorme joueur. Chaque année, on pense qu'il peut être MVP. Donc, franchement,
qu'il a son passeport, ce sera peut-être plus simple.
Oui,
ce
sera peut-être plus simple. Mais pour venir sur ce que disait Thomas Louis, effectivement, le mental... c'est une équipe qui marche beaucoup à ça, parce qu'on voit dans le dernier quart, déjà troisième quart temps, ils sont sous l'eau. Quatrième quart, ils reviennent au mental, on ne sait pas d'où, comment. Mm-hmm. Et pourtant, dans les 20 dernières secondes, on a 5-6 points de retard, donc on se dit c'est terminé, même si au basket et en NBA, rien n'est terminé. N'est jamais terminé à part quand l'arbitre siffle. Mais une seconde peut égaler à une minute au basket. Et il y avait une faute antisportive qui est sifflée contre Timothy Luau Cabarro. Donc on se dit que là, c'est encore terminé. Ils ont un lancer gratuit, c'est fini. Et au mental, ils reviennent. Rudy Gobert nous fait cette fameuse claquette. Et antisportive sifflée contre les Turcs. Donc ça retourne la situation. Ça a été vraiment irrespirable pendant, on va dire, la prolongation pendant 3 minutes. Et j'espère qu'ils vont réussir à trouver le niveau entre mental et à la fois du beau jeu, parce que perdre des ballons sur des possessions comme ça si importantes, c'est un peu bête.
Voilà, bah, on espère donc une bonne nouvelle. Et puis pour rester dans les sports co, tiens, on va saluer nos filles du rugby à 7 qui ont réussi donc à terminer 3e de la Coupe du Monde. Hein. C'est l'Australie qui s'est imposée chez les femmes et les Fidji, donc des pays de rugby, chez les hommes. Mais elles confirment en tout cas leur bonne prestation olympique de l'année dernière. Et puis dernier gros événement sportif de cet été, hein, qui a marqué en tout cas donc l'événement, c'est la Formule 1, Verstappen, qui survole le championnat du monde. Il en est à sa 11e victoire cette année. Je crois que c'est le 5e consécutif cet été. Ça. Bon, il n'y a plus de suspense.
Bah, le suspense, c'est
il reste
6
grands prix. Hein.
Il reste 8 grands prix, mais bon, 6. Dans. Ah oui, 6, pardon. Dans 2 semaines, Verstappen, si ça continue comme ça, il pourrait être champion, double champion du monde. C'était la 16e manche du championnat. Les écuries de Formule 1 se déplaçaient en Italie, à Monza, donc chez Ferrari. Donc Ferrari ne devait, pour une fois, ne pas se planter, ne pas faire d'erreur. Ce qu'ils ont fait, ils ont bien joué la stratégie jusqu'au bout. Ils sont rentrés au bon moment. Ils ont profité des safety cars, tout ce qu'il fallait. Malheureusement, Verstappen était au-dessus, trop rapide. Et dans les 5-6 derniers tours, on voit Daniel Ricciardo, le pilote australien, qui avait été d'ailleurs sur la plus haute marche l'année dernière à Monza, se garer pour un problème technique, donc abandon. On se dit safety car, donc ça va rapprocher Leclerc et Verstappen. Ils vont pouvoir s'expliquer dans les 2-3 derniers tours. Et malheureusement, on a fini sous safety car, parce que beaucoup trop lent à dégager la voiture. Et Verstappen, voilà, il est à 335 points. Charles Leclerc est à 219.
Ouais, donc Pérez 210.
Même Russell qui Mercedes est à 203. Donc c'est presque joué. Red Bull est à 545 points pendant que Ferrari est à juste 406 points. Mais c'est à cause des erreurs qu'ils ont fait, par exemple à Monaco. Il faut rentrer Charles Leclerc trop rapidement. Où ils ont joué de malchance, mais ils sont aussi très très mauvais stratégiquement.
Moi j'ai une question pour Valentin. Lewis Hamilton cette saison c'est comment? Et est-ce que la défaite d'Hamilton l'année dernière dans de drôles de conditions sur la dernière course qu'on a tous regardé, même si on n'est pas fan de Formule 1, est-ce que ça l'a pas aussi un peu blasé pour cette saison?
Effectivement, c'est bien que tu parles de ça, parce que c'est ce qui s'est passé à Monza, c'est un peu le même schéma et la même histoire qui s'est passée à Abu Dhabi la saison dernière. Safety car dans les derniers tours, on pensait que les retardataires allaient doubler la voiture de sécurité et retourner derrière pour qu'on laisse les deux hommes s'expliquer. Ça a pris plus de temps, donc on s'attendait à une même explication. Et Lewis Hamilton, actuellement, il est 6ème du championnat. C'est très compliqué pour lui, on le voit dans les 20-30 premiers tours, il a du mal, il passe de la 19ème place, pardon, à la 11e, mais très difficilement. Il ne remonte pas aussi vite qu'un Sergio Pérez ou Carlos Sainz qui était parti lui 20e, pilote Ferrari aussi. Et Lewis Hamilton, on pensait qu'il n'allait pas revenir. On a eu des doutes jusqu'au début du premier Grand Prix à Bahreïn. Il n'avait pas officialisé qu'il revenait, il n'avait pas signé un nouveau contrat. Toto Wolff, qui est le directeur de Mercedes, était un peu évasif sur le sujet, il ne voulait pas trop dévoiler. Donc Lewis Hamilton, et après, quelques mois plus tard, Lewis Hamilton nous dit qu'en interview avec Canal+, qu'il se sent comme s'il avait 25 ans, qu'il en a, il a encore 5 ans devant lui. Il a 300 Grands Prix actuellement, donc...
Mais est-ce qu'il ne pourrait pas revenir en force l'année prochaine? Parce qu'on a déjà vu ça au tennis, où Federer, Djokovic, Nadal, ils ont tous eu une période de creux.
Mais ça revient peut-être aussi.
Et reviennent plus fort.
Les voitures,
c'est les voitures aussi qui font la différence.
Cette année, c'est une nouvelle réglementation pour les voitures. Tout le monde, donc on voit, les Grands Prix sont beaucoup plus intéressants, ça c'est sûr. Les voitures se suivent de plus en plus. Mais Lewis Hamilton, moi je pense qu'il y a une victoire qui va arriver chez Mercedes cette saison. Mais que ça sera George Russell, parce que George Russell, comme on le voit, il est 4e pendant que Lewis est 6e au championnat, et George Russell bat presque tout le temps Lewis Hamilton, ce qui ne remet pas en cause Lewis Hamilton, parce que quand même 7 fois champion du monde, un pilote extraordinaire au même niveau que Michael Schumacher. Donc je pense que l'année prochaine, oui, s'il y a une bonne voiture, que Mercedes fait bien les choses, théoriquement Lewis Hamilton, mais bon, il est encore, même avec une mauvaise voiture et une mauvaise gestion, que 6e, c'est quand même déjà, il y a 20 pilotes, c'est quand même exceptionnel d'être 6e, et il pourrait jouer à la 5e place. Mm-hmm. Donc à voir, on espère le revoir très vite, parce que c'est quand même un immense champion.
Alors justement, on disait que les courses étaient plus spectaculaires. La preuve, c'est que les audiences sont bonnes à la télé, sur Canal.
Les audiences sont bonnes. Très très bonnes. Ouais, on le voit à Monaco, il y a de plus en plus de...
Ce n'est plus, pourtant, il n'y a pas de suspense.
À Monaco, pas du tout. C'est très compliqué de dépasser, à part si on a une bonne stratégie, si on rentre au bon moment. D'ailleurs, on le voit avec Ferrari qui fait rentrer Charles Leclerc alors qu'il ne le voulait pas. Et qu'ils se trompent dans leur stratégie, et ça a fait perdre la victoire à Charles, qui est monégasque. Et oui, il y a de plus en plus d'audience. Et puis même l'année dernière, juste le Grand Prix d'Abu Dhabi, qui a été un des événements sportifs les plus vus de l'année. Et ça, c'est la Formule 1 est de plus en plus attractive. Et puis cette nouvelle réglementation permet aux gens qui connaissent pas trop la Formule 1 de au moins regarder et juste de dire ok, ils se dépassent, tout le monde peut dépasser tout le monde. Il faut juste maintenant jouer la stratégie, la meilleure stratégie.
Voilà, bon, ça c'était pour les grands événements sportifs de cet été. Alors, on en a gardé un, le dernier pour la fin, ça va nous faire l'enchaînement avec le foot, parce que nos amis du FC Viking, je ne sais pas ce qu'il aurait, mais enfin, c'est les féminines. L'équipe de France, donc féminine à l'Euro,
c'est ça,
en demi-finale. Donc, on en parlait tout à l'heure, demi-finaliste de l'Euro. Alors, c'est la première fois depuis donc 2012, puisque l'équipe de France a terminé 4e en 2011 de la Coupe du Monde, 4e aux Jeux Olympiques. L'équipe de France n'arrivait pas à franchir un palier, ce fameux stade des quarts de finale. Et puis là, elle est arrivée en demi-finale. Elle a battu l'Italie 5-1. Elle a battu la Belgique difficilement 2-1. Elle a fait un nul contre l'Islande 1-1. Et puis, elle a battu les Pays-Bas 1-0 après prolongation, avant de s'incliner contre l'Allemagne 2-1. Est-ce que l'équipe de France, messieurs, est à son niveau?
Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, et aussi également, qu'ils sont à leur niveau. Après, il y a un petit quand même, là où je suis un peu déçu, c'est qu'il n'y avait pas Katoto. Katoto qui se blesse, avec Katoto dans cette équipe, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Mais sinon, je pense qu'elles sont à leur niveau. Je pense que la prolongation de Corinne Diacre, c'est dans la logique sportive, du fait qu'il y a les JO qui arrivent, les championnats du monde, c'est ça, les championnats du monde qui arrivent. Je trouve que c'est logique de prolonger Corinne Diacre, mais je trouve que c'est une équipe à son niveau. Après, c'est l'équipe de France, un peu déçu, quoi.
Ouais. Enfin, bon, c'est l'Angleterre qui a gagné devant l'Allemagne 2-1. L'Angleterre qui a fait ce que les hommes n'avaient pas su faire l'année d'avant. Ils ont gagné chez elles, alors que les hommes avaient perdu leur finale de l'Euro face à l'Italie l'année dernière. Je pense quand même, c'est mon opinion personnelle, qu'on surcote un petit peu trop cette équipe de France. Voilà. Donc, demi-finale, elle est à son niveau. Il lui reste encore du travail à faire, parce qu'on espère tous voir un jour une belle équipe de France devenir championne d'Europe et championne du monde, Et je pense qu'on espère tellement qu'on la surcote un petit peu trop.
Et je pense que ce
voilà, c'est mon opinion. Hein.
Je pense que d'où vient le fait qu'on les surcote. Je pense que ça vient aussi des équipes féminines de clubs. En fait. Quand on voit Lyon, quand on voit le Paris Saint-Germain.
Ou les autres sports co, le basket ou le hand, où les filles marchent bien. Quoi, hein,
on se dit, quand tu vois que sur les clubs féminins, on surdomine comme ça l'Europe. Bah pourquoi en équipe de France on n'y arrive pas, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes compétitions, c'est pas les mêmes adversaires aussi forcément. Donc elle est un peu surcotée cette équipe, mais moi franchement pour les championnats du monde je les vois bien aller assez loin. J'ai envie d'y croire en tout cas.
Espérons une finale.
En tout cas, on parlait aussi d'audience pour la Formule 1. Il y a eu des bonnes audiences aussi pour le foot féminin. La même semaine que le Tour de France cycliste féminin qui a fait aussi des bonnes audiences. Donc vraiment, le sport féminin a été à l'honneur. Ça, c'est au moins le point positif.
Mais oui, on en parle souvent sur mon Paris Sport.
En prime time, en plus.
C'est quelque chose d'important que les mentalités évoluent, de voir que oui, c'est pas exactement le même sport, mais c'est pour des audiences différentes et c'est quand même de très beaux sports et donc ça fait plaisir, c'est vrai.
L'Euro féminin, l'équipe de France est à son niveau, Valentin, tu penses?
Bah, ils auraient pu même espérer peut-être une prolongation, une finale, parce que franchement, dans les 20 dernières minutes, l'Allemagne recule. Et il manque un petit truc à cette équipe de France.
En 2019, c'était pareil contre les USA. Hein.
Contre les USA, on se dit qu'ils peuvent le faire. Elles ont le potentiel, mais puis bon, après, c'est. Voilà.
Elles ont peut-être atteint le plafond de verre aussi.
Oui,
quand à chaque fois il te manque quelque chose, c'est peut-être que tu es arrivé à ton.
Oui. Et c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à passer ses quarts de finale. Là, elle y est arrivée comme il y a 10 ans. Mais il manque encore un petit quelque chose. Voilà. Allez-y.
Ouais, non, mais comme on disait, elles ont peut-être aussi atteint ce plafond de verre-là. Et je pense que, en tout cas, pour le moment, ça va être compliqué d'aller au-dessus. Mais il y a une génération qui arrive. Hein. Moi, Katoto, j'ai envie d'y croire. Peut-être cette équipe avec Katoto, j'ai envie de voir ce que ça donne. Il y a la latérale gauche de Lyon, la remplaçante de Sakina Karchaoui aussi. Très, très belle joueuse de football. Après, il y a Corinne Diacre aussi dans sa gestion humaine. Peut-être faire des concessions.
Elle a été quand même très très controversée.
Quand on a des joueuses comme Eugénie Le Sommer qui participent pas pour une histoire d'ego, c'est dommage. Quand on a des joueuses comme Amandine Henry qui participent pas aussi, c'est dommage. On a un beau vivier.
Emblématique de l'équipe de France.
Il y a un moment donné aussi, il faut mettre sa rancœur de côté et l'intérêt collectif.
Et c'est une logique de la Fédération française de football de prolonger ces hommes et ces femmes qui sont sélectionneurs. Comme des fois, on voit tout le temps dès qu'il y a un échec, Didier Deschamps.
Ça fait partie du sport, l'échec.
Ou Corinne Diacre. Après 2019, on se dit peut-être que bon.
Pour Corinne Diacre, c'est vraiment compliqué parce que l'année prochaine, tu as la Coupe du Monde, ensuite tu as les JO qui arrivent.
Il y a un enchaînement en fait.
C'est compliqué de changer de coach tout de suite. À mon avis, après les JO 2024.
Mais c'est une équipe très frustrante parce que quand on voit effectivement Lyon et le PSG qui sont quand même des clubs en finale, qui sont très très performants.
C'est le mot frustrant.
Tiens, elle a dit un petit mot là. On parlait de ce qui s'est passé cet été en matière de sport. Les féminines, l'Euro, elles sont à leur place en demi-finale?
En demi-finale, bon, franchement, j'ai pas trop regardé. Oui. Honnêtement, j'ai pas trop regardé. Je suis de temps en temps.
C'est pas bien, tu dois.
De temps en temps, mais après l'équipe française, quand même, je les trouve assez fortes. Hein. Mmh. Moi, franchement, je les trouve assez fortes, mais après, je sais pas si ils sont à leur place. Mmh. Voilà, comme tu le dis, je sais pas.
Ouais. En tout cas, le championnat féminin, lui, il a repris. Et pour l'instant, le Paris Saint-Germain a battu Soyaux 2-0. Et le Paris FC a battu Rodez 2-0. Donc, ça a bien commencé cette première journée. Et Fleury Mérogis s'est imposé à Guingamp 3-0. Voilà.
J'ai pas entendu, Philippe.
Oui, Paris Saint-Germain et le Paris FC qui ont gagné aussi leurs deux premiers matchs dans le championnat féminin qui est reparti.
C'est ça, ouais. Après, dans le championnat féminin, il n'y a pas trop de suspense.
Ah non, c'est PSG Lyon.
On sait qui finit. Je dirais même c'est Lyon après le PSG. On sait qui finira champion, championne. Mais mais c'est pareil. Et en fait, nous, en France, ce qu'on attend vraiment, c'est la Coupe d'Europe. Savoir cette année, est-ce que le PSG va pouvoir aller chercher. Je parle des féminines, non Est-ce que le PSG va pouvoir aller chercher cette Coupe d'Europe et passer devant Lyon
Allez, on va écouter la deuxième page musicale, hein, sous le soleil des tropiques avec Gilbert Montagné. Ensuite, on reprend les bonnes habitudes, notre ami Stéphane qu'on aura au téléphone, et puis on va enchaîner après sur la partie foot. Allez, sous les soleils des tropiques avec Gilbert Montagné. C'est moi.
Du Brésil entre Cuba et Manille.
Stéphane Dezenclos, bonsoir. Ravi de vous retrouver, Stéphane. Hein. On reprend les bonnes habitudes.
Bonsoir. Alors, je vous entends quasiment pas. Hein. Je sais pas si vous, bon, vous m'entendez alors, bien, mais moi, je vous entends quasiment pas.
Alors, moi, nous, on vous entend. On vous entend parfaitement bien.
Bon, super. Là, ça va,
ouais,
ça passe.
Ouais, ouais. Alors. Ouais. Alors. Stéphane, est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez?
Oui, là, ça va. Nickel.
Ah bah ouais, c'est parfait. Vrai, c'est... Voilà, tout est là, Stéphane. C'est la reprise. Ravi de vous retrouver. Ravi, ouais. Ravi de reprendre les bonnes habitudes.
Bonjour à tout le monde. Alors, tous, là, autour de la table.
Ouais. Alors Stéphane, d'abord un petit mot sur ce début de saison de foot.
Oui, bah écoutez, moi, le début de saison en général, c'est vrai que cette première chronique a déjà une énorme actualité, oui. Qui s'est passé ne serait-ce que sur ces 10 derniers jours. Alors, tout a commencé, Philippe, avec une histoire que je traite de ridicule, de char à voile. Encore pour ma part, ce qu'elle est venue faire, cette histoire, dans une conférence de presse de foot, 24 heures avant un match important des champions.
C'était pas un journaliste de foot, hein, Stéphane, qui a posé la question en plus, hein.
Comment ?
Ça n'était pas un journaliste de foot qui a posé la question.
Ah ouais, tout à fait. Et je dis merci quand même à Christophe Galtier d'avoir. J'ai pas tout à fait entendu ce que tu as dit là sur la personne qui a posé la question, mais je dis merci à toi, à Christophe Galtier, d'avoir utilisé le ton de la blague pour répondre à la question ridicule de ce journaliste. Alors, je ne sais pas qui c'est, justement, tu viens peut-être d'en parler. C'est qui pour ma part, est limite honteuse, qui m'a fait plaisir en revanche. La semaine dernière, c'est le bon comportement de nos clubs français sur la scène européenne. Ça, on ne l'a peut-être pas assez souligné, mais avec 4 victoires, un nul et une défaite, le bilan est très bon. Seuls les Espagnols ont fait mieux. Et c'est tout bénef, bien sûr, pour l'indice européen, l'indice de l'UEFA. On notera au passage le naufrage des Italiens qui avaient 7 équipes engagées et qui n'ont gagné que 2 matchs. Voilà qui confirme que la Ligue 1 n'est pas le plus mauvais des 5 grands championnats européens. Depuis le temps que je le dis. Mais il ne fallait pas forcément être italien pour couler cette semaine. L'OL de Peter Bosz a perdu 2 fois. D'abord à Lorient, en match en retard de la 2e journée. Et puis à Monaco hier soir, 2 défaites qui transforment encore une fois le début de saison de l'OL en cauchemar. Pourtant, il avait promis, Peter Bosz, cette saison sera beaucoup mieux. Il n'a pas arrêté de dire ça pendant toute la préparation. Les supporters attendent toujours l'éclaircie. Eh ben, elle pourrait venir avec l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc, c'est un scoop du quotidien du sport. Laurent Blanc a rencontré Jean-Michel Aulas qui rêve de faire venir Laurent Blanc sur le banc de l'OL. Pendant ce temps-là, je rigole quand même, on parle de ce début de saison, de la situation de l'OM. Rappelez-vous, Philippe, lors du premier match contre Reims, un truc hallucinant, Igor Tudor est entré au Vélodrome sous les sifflets des fans de l'OM. Ouais. Aujourd'hui, il permet à l'OM de faire un début de saison exceptionnel, le meilleur de l'histoire du club. Et pourquoi pas d'espérer même accrocher le PSG le plus longtemps possible dans la course au titre. Les sifflets contre Tudor, pour moi, ils résonnent aujourd'hui un peu comme les sifflets contre Messi et Neymar la saison dernière au Parc des Princes. Ils sont teintés de bêtises. Les supporters tout puissants, c'est décidément pas mon truc. Avant de se quitter, je ne peux malheureusement pas passer à côté de la polémique du week-end. Le carton rouge non donné à Prenel Kimpembe sur son tacle de boucher contre Brest en fin de match. Oui, c'est évident, il aurait mérité 2 fois le rouge. Le deuxième rouge, c'était pour son geste envers l'arbitre. Mais c'est juste une grosse erreur d'arbitrage. Pas la peine de dire « on sait maintenant, le PSG est avantagé et tout ». Et en plus, cette erreur n'a eu aucune influence sur le match. Comment on peut dire, après un match comme ça, en tout cas, que le Paris Saint-Germain est avantagé, alors que 25 minutes plus tôt, l'arbitre avait accordé un pénalty très, très généreux, pour ne pas dire imaginaire, mais très, très généreux aux Bretons. Il avait aussi oublié un pénalty possible quelques minutes plus tôt pour une faute sur Ekitike et annulé un but du PSG pour un hors-jeu de quelques millimètres. Alors même si tout ça était des bonnes décisions, peut-être, on ne va pas forcément dire le contraire, on ne peut pas dire que le club de la capitale a été en tout cas sur ce match particulièrement avantagé, surtout qu'un rouge à Kimpembe n'aurait rien changé du tout à la fin de match puisque Kimpembe blessé est sorti et que les Parisiens ont joué les 3 ou 4 dernières minutes à 10. Voilà, on se revoit la semaine prochaine, Philippe.
Alors, Stéphane, simplement pour dire que le journaliste qui avait posé la question, là, vous avez bien m'entendre, c'était pas
un journaliste... Je suis désolé, Philippe, j'entends pas du tout, ce que tu dis.
Bon, c'est pas bien grave. Ok, mais merci Stéphane, à la semaine prochaine, salut, merci. Voilà, donc pour...
Bonne soirée à tous.
Ouais, bonne soirée à toutes et à tous. Bah écoutez, ça va... on fait avec, hein, on va ranger ça dans les prochaines semaines. Bon, messieurs, sur ce que vient de dire Stéphane, donc on va revenir donc sur ce championnat, ce début de championnat. Qu'est-ce que vous en pensez? On marque début en tout cas.
beaucoup de spectacles et je tiens à dire des mots d'amour envers Abou. J'aime bien regarder l'OM. Ouais. Honnêtement, ça me fait plaisir de les voir à ce niveau parce que je suis partisan de on veut Paris, on veut l'OM, on veut Lyon au plus haut niveau. On parlera pas de Lyon parce que ça va faire des aigris, mais moi ça me fait plaisir de voir l'OM à ce niveau. J'ai hâte de voir le Classico au parc le 27 octobre, je crois, quelque chose comme ça. Ça va être beau.
C'est le 16 octobre.
Ah, bah, presque.
Dimanche 16 octobre, Paris Saint-Germain, Marseille. Voilà.
J'ai hâte de voir ça et ouais, un très beau début de saison, de très beaux matchs. La Ligue 1 nous fait rêver.
Oui, parce que y a pas mal de moyennes de buts, hein, 33, 34, 37 buts, je crois. C'est un championnat où on marque depuis le début de saison, hein.
On a des équipes
avec des scores fleuves, hein.
Ouais. On a des équipes joueuses aussi, Philippe. Hein.
Oui, oui,
on a,
bien sûr. Tant mieux.
On a Lorient, on a Lens,
oui.
On a l'OM de Tudor, on a le PSG qui est parti en match 7 à Lille. On a même Fonseca qui a un entraîneur porté vers l'offensive. On a des équipes vraiment joueuses. Et pour moi, la Ligue 1, ça devient vraiment un championnat agréable à regarder. Mmh. Et je pense même, ça va peut-être en heurter certains, mais que la Ligue 1, c'est un championnat, par exemple, aujourd'hui, qui est plus agréable à regarder que la Serie A.
Oui, ouais, oui, certainement, oui. Donc, avec d'autres commentaires, Eladji ?
Non, c'est vrai qu'en ce moment, en tout cas cette année, on a de très beaux matchs de Ligue 1. Moi, ouais, franchement, ouais. Je regarde toutes les confrontations et franchement, je me régale. Mais ouais, en ce moment, on peut dire que c'est mieux que la Serie A. Mais pour moi, en tout cas, même si je suis partisan français, OM, PSG, etc., tout ce que tu veux, la Serie A reste meilleure sur le plan européen et même le championnat en lui-même reste meilleur que la Ligue 1.
Après, sur le championnat lui-même, moi je dirais pas ça. Moi, je mettrais la Ligue 1 un peu devant. Sur le plan européen, je suis d'accord avec toi parce qu'on a des équipes quand même comme l'Inter, le Milan, même le Napoli hein, qui a claqué les Liverpool la semaine dernière.
Napoli, mais moi je continuerai. Franchement, je pourrais te dire Atalanta, Lazio, Rome. Toutes ces équipes, je pense, qui jouent contre les 5 premiers de Ligue 1.
Ouais, intéressant.
Je pense que les clubs italiens. Auront l'avantage, au moins ils vont gagner sur 3 matchs.
Dis. Après, moi je parle vraiment. Voilà. Au niveau du championnat, par exemple, moi je préfère passer mon samedi dimanche à regarder Lens.
J'ai pas dit le contraire,
Lorient,
bien sûr.
Après, moi je parle vraiment du championnat. Après, au niveau européen, je suis d'accord avec toi que l'Italie reste au-dessus. Ça, c'est il faut être lucide sur ça.
Ouais, et sur ce qu'avait dit Stéphane là, dans son édito,
je ne suis pas d'accord
avec
lui.
Je vous ai vu hocher la tête sur certains points.
Sur certains points, parce que par exemple, moi aussi, j'ai pas compris. J'étais dans la compréhension totale quand je vois le vélodrome siffler Igor Tudor. Mm-hmm. Mais juste après, le premier match, c'est un 3-0.
Oui.
Les matchs d'après, il fait que du sans faute. Mmh. Franchement, c'est agréable de voir Marseille jouer. Depuis le début de saison, c'est agréable. Je prends vraiment du plaisir à regarder les matchs de Marseille, en sachant que je suis supporter du PSG. Mais par contre, il ne peut pas dire qu'il ne comprend pas de la même façon dont il n'a pas compris quand Messi et Neymar ont été sifflés au Parc des Princes. Parce que ça, c'est justifié. Moi, pour moi, en tout cas, c'est justifié. Et je suis au parc ce jour-là aussi.
On en avait parlé, je me souviens.
Ce jour-là, je les siffle aussi.
Mais c'est quoi la justification alors ?
La justificatif ? La justification, c'est simple. Hein. On les a vus. T'as regardé le match contre le Real de Madrid ?
Ah oui, mais.
Tu comprends. Juste en regardant le match, tu comprends pourquoi on les siffle quand ils retournent au PSG.
Je suis pas d'accord.
Moi, je suis d'accord à 100 000%. Et je suis là-bas, je les siffle encore plus.
Tu n'as pas le droit de siffler un joueur qui a gagné 7 ballons d'or et qui va.
Mais attends, il a gagné 7 ballons d'or où ?
Au Barcelone.
Je suis parisien. Il a rien ramené à Paris. Rien. Il est venu, on l'a payé je sais pas combien de millions. Et il fait rien. Il a marqué 4 buts, 2-3 passes décisives. Mais c'était vraiment c'est pas digne. Là en ce début de saison, je dis pas le contraire. En tout cas l'année dernière, c'est justifié pourquoi on l'a sifflé. Il refait la même saison, on le resiffle encore 2 fois au Parc des Princes. Bah oui, c'est tout à fait normal.
Mais c'est pas normal.
Quand
des joueurs
Cristiano
font
Ronaldo qui est quintuple ballon d'or, il se fait siffler même à Old Trafford.
Il se fait pas siffler.
Si. Il y a des matchs quand il enchaîne 2-3 matchs, il ne marque pas, on le siffle à Old Trafford. Et comment il répond ? Avec un doublé voire un triplé.
Ah bah oui, là il a
c'est
bien
avec
répondu.
Ça qu'il
il a super bien répondu.
Bah il a joué un seul match titulaire.
Bon bah alors, Valentin.
Calmez-vous.
Je te réponds.
Pour revenir sur Cristiano Ronaldo et tout, c'est vrai que depuis le début de saison c'est très très compliqué. C'est vrai que ça a été il y a eu deux parties des supporters, comme le disait Thomas Louis. Là on le voit d'ailleurs sur le plateau, que d'un côté il y a des supporters qui ne comprenaient pas pourquoi Messi et Neymar se faisaient siffler, et d'un autre côté c'est vrai que quand tu regardes le match face au Real,
c'est la saison. Et vraiment contre le Real, c'était vraiment la goutte d'eau qui venait faire déborder le vase. Voilà, c'était ça.
si je peux ramener un peu de calme sur ce plateau après avoir beaucoup rigolé quand même.
Ouais.
Moi pour Tudor,
oui, ça reste du foot, hein, ça reste ouais, du foot. Hein.
Bah oui, c'est, bon, pour ça, voilà. C'est pour ça qu'on en rit plus qu'autre chose.
Ouais.
Moi pour Tudor, je vous dis la vérité, j'étais en train de regarder le match avec mon petit frère et en fait, quand vous connaissez le public marseillais, bon, on n'est pas écouté par énormément de gens, donc je peux le dire, c'est un public de débiles. Je l'ai dit à mon petit frère juste avant le coup d'envoi, juste avant quand on annonçait les joueurs. Igor Tudor, il va être sifflé. C'était tellement prévisible. Les matchs amicaux catastrophiques, en fait, dans l'esprit des Marseillais, les matchs de préparation, c'est pas des matchs de préparation, c'était des matchs de Ligue des Champions directement. Donc c'était prévisible qu'il soit sifflé. Et on a un stade, malheureusement, où Marseille, c'est vraiment une ferveur. T'as 2-3 idiots qui sifflent, t'as tout le reste qui suivent comme des moutons, et c'est dommage. Mais après, c'est vrai que Tudor, pendant les matchs de préparation, moi aussi, il m'avait déçu. Moi aussi, j'étais là, j'étais un peu sceptique sur le coach. Après, de là, le siffler pendant 1-2 matchs, parce qu'il n'a pas été sifflé que le premier match, hein, faut le dire. Il a été sifflé le premier match, il a été sifflé le deuxième match, pas par tout le monde. Le deuxième match, un peu moins. Le troisième, encore un peu moins. Après, quand ils ont vu que ça filait, ils ont complètement arrêté de le siffler. Mais le public marseillais et le public français, de manière générale, est un public de... J'ai pas envie de
moment.
Ouais.
Voilà, voilà.
Alors bon, pour revenir donc sur ce début de championnat, on est tous d'accord, on a un beau début de championnat. On va quand même très brièvement rappeler les résultats. Lens qui bat 3-1-0, PSG qui bat Brest 1-0, Marseille qui bat Lille 2-1 et puis Lorient qui s'impose devant Nantes 3-2. Autre score important, c'est Rennes qui a écrasé Auxerre 5-0 et Monaco, c'était un beau match hier soir, qui a battu Lyon 2-1. Donc Paris Saint-Germain et OM en tête avec 19 points, 3e Lens 17, 4e Lorient 16, 5e Lyon 13 et le dernier, c'est l'AC Ajaccio avec un petit point. Ils ont du mal, hein, Ajaccio.
Fait 4 matchs, ils ont pas réussi à mettre un but.
Ouais.
Je pense que Ajaccio, ça va retourner de là où ça vient assez rapidement. C'est dommage. Moi, j'avais hâte de revoir le public corse en Ligue 1. Et même au niveau de la ferveur, j'ai pas l'impression que ce soit si extraordinaire que ça. En fait, ils sont vraiment revenus faire de la figuration, autant dans les tribunes que sur le terrain. Donc, les Corses, c'est sympa, hein, mais voilà, retournez de là où vous venez et renvoyez-nous Bordeaux, avec qui j'ai été critique l'an dernier. Renvoyez-nous Bordeaux en Ligue 1.
Alors justement, Bordeaux, on va aborder la Ligue 2, hein, et puis Saint-Etienne a battu Bordeaux 2-0, il y a encore l'année dernière, c'était un bon match de Ligue 1. Dijon a été battu à domicile par Sochaux 2-0, et le Paris FC est allé gagner à Grenoble 2-1, ce qui fait que Sochaux est premier avec 16 points, le Havre et Caen, les deux clubs normands, deuxième 15 points, le Paris FC 10e, 10 points pour l'instant, en milieu de tableau. Début mitigé du Paris FC.
Début de saison délicat, en plus à chaque fois que je regardais leur score, je pensais à toi Philippe, et c'est vrai que le début de saison du PFC, c'est très très délicat, mais est-ce que vaut mieux pas un début de saison délicat et finir en trombe plutôt que commencer comme ils ont commencé les autres années et finir 4-5e. L'avenir nous le dira.
Alors, justement, on a un cadeau à vous. On avait promis une interview de Rai en ce début de saison, hein, et on sait que Rai, il est devenu membre du conseil d'administration du Paris FC à travers sa société. Il est rentré au Paris FC. On l'avait rencontré à l'occasion de la journée olympique. Il n'avait pas encore annoncé complètement son arrivée donc, au Paris FC. Alors, c'est le cadeau de début de saison qu'on vous fait. Celui qui a été une des icônes du Parc des Princes et du Paris Saint-Germain au micro de Mon Paris FM.
On va revenir un peu sur votre carrière, si vous le voulez bien. Vous remportez la Coupe Intercontinentale face au Barcelone en 1992. À cette période, vous devenez titulaire dans la sélection du Brésil. Vous rejoignez le Paris Saint-Germain en 1993 pour 5 saisons. Vous avez joué 215 matchs pour 72 buts, je me suis renseigné. Vous avez un attachement particulier à cette ville. Vous êtes une légende du PSG. Est-ce important pour vous de revenir régulièrement à Paris pour promouvoir ce genre d'événement?
Oui, c'est très important. Ouais, maintenant, ça va être un événement magique. Après 100 ans, 100 ans, on va avoir encore une Jeux Olympiques à Paris. Je suis redevenu parisien. J'étais au Brésil. Maintenant, j'habite à Paris pour les prochaines années. Moi, j'ai commencé un master à Sciences Po. Vous avez raison. Moi, c'est une ville qui me touche énormément. Les gens, je crois que j'ai construit une belle histoire avec le club, mais aussi avec la ville. Donc, je me sens ici comme chez moi. Et je vais profiter. Bon, non seulement je fais un master aussi à Sciences Po, mais aussi pour avoir d'autres projets, reprendre tous mes contacts ici en France. Et c'est un lieu, une ville où je me sens très 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 heureux, où je me sens chez moi, comme je l'avais dit. Mais surtout aussi, avec ces cycles olympiques, ça va être magique. Je veux y participer, non seulement avec le comité olympique, mais aussi avec les acteurs du terrain.
Surtout, vous avez connu ça au Brésil en 2016.
Oui, oui, on a connu. Le Brésil, bien sûr, qu'il y a eu des choses qu'on aurait pu faire mieux, mais pendant le jeu, un peu avant et pendant le jeu, c'était magique, les supporters brésiliens. Recevoir les gens du monde entier dans la ville de Rio, c'était une ambiance magique pour ceux qui ont eu le privilège. Moi, j'ai passé les deux semaines à Rio. J'ai fait aussi des participations pour la presse française, monter un peu le regard brésilien sur les jeux. Et c'était vraiment incroyable. Et je crois que Paris, ça va être encore meilleur. On voit déjà le esprit démocratique hein, de cet événement. Et aussi, c'est Paris, ouais, la France, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays d'accueil. Et ça, on va voir tout ça dans deux ans. Mais non seulement, non que, mais on va, pendant ces deux ans, on voit dans cet événement-là. C'est vrai quand on voit le monde entier qui va débarquer sur Paris, quand on voit aussi l'esprit, quand on voit l'esprit, l'ouverture des Jeux Olympiques par exemple, ça va être sur la scène, ouvert à tout le public. Donc je crois que cette façon que Paris prépare les Jeux, ça fait en sorte que ça va devenir quelque chose d'un des plus beaux Jeux du monde, de tout le temps.
Ok, nickel. Et justement, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de cette journée olympique? Il y a pas mal de monde, on est sous le soleil. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Moi, je pense que c'est tellement un privilège d'avoir les Jeux Olympiques qu'on ne peut pas attendre qu'il y ait les deux semaines du jeu. Donc, je crois que le pays doit se mobiliser, de faire en sorte que cet esprit olympique, les valeurs du sport, les valeurs des Jeux Olympiques, qu'on puisse les vivre au quotidien et que le sport puisse faire partie du développement des nouvelles générations et aussi de cette intégration entre tous.
Ok, nickel. Ben, écoutez, Raïs, merci d'avoir été avec nous.
Donc, et c'est la fête de tous les sports en plus.
Ouais.
C'est la fête de tous les sports.
C'est la fête de tous les sports, ouais. C'est comme si c'était. Souvent on compare à la Coupe du Monde, mais c'est beaucoup plus grand que la Coupe du Monde, c'est beaucoup plus festif et c'est quelque chose que si ça va sûrement on va faire beaucoup de monde découvrir des nouveaux sports qui avant ils pratiquaient pas et je suis sûr que ça va changer des vies la vie des Français, le quotidien des Français d'avoir ces Jeux Olympiques ici.
Bon, dernier petit mot, vous savez que vous êtes resté dans nos cœurs au Parc des Princes. Hein.
Ah oui, ça m'a aussi ça. Chaque fois que je viens au Parc aussi, ça me touche énormément. Des très beaux souvenirs. Je suis très fier d'avoir fait partie de l'histoire de ces grands clubs.
Merci. Donc, merci beaucoup à tous. Merci.
Voilà, immense champion. Hein. On a eu l'occasion de le côtoyer. Alors cette interview, elle repassera chez nos amis du quotidien du sport, comme celle qu'on avait eue au mois de juin, qu'on vous avait diffusée dans notre dernière édition du mois de juillet, hein, à l'occasion de cette journée olympique. Certaines interviews avaient été reprises. Celle-là sera aussi reprise par nos amis du quotidien du sport. Mais immense champion, immense monsieur, respect, humble, enfin...
Hein. Ouais, franchement, bah, juste merci. Quand on est supporter du PSG, on a juste à dire
quand
merci.
Il n'y a pas d'autre chose à dire. En plus, il va s'investir au Paris FC. Il habite Paris. On va essayer d'avoir un jour.
Ce serait sympa.
Ouais.
En plus, on sait qu'il est. Il y a Yvon Wandji aussi qui est impliqué au Paris FC. Oui. Peut-être faire en sorte que d'avoir les deux le même jour sur le même plateau.
Oui, et ça c'est on l'avait eu et la nouvelle a été révélée, je crois, 2-3 jours après. Hein. C'était pas encore complètement fait, puis 2-3 jours après sa venue donc au Stade de France, c'était fait. Donc membre du conseil d'administration du Paris Saint-Germain du Paris FC, on aura sûrement l'occasion de le rencontrer d'ailleurs à Charletti dans les prochains matchs. Parce qu'il doit venir assez régulièrement. Alors à Charletti joue aussi. À bout l'Atlético hein, ce soir ils sont au Stade Bauer contre le Restart à 21h, match qui sera d'ailleurs diffusé chez nos amis de Canal Plus. Toi tu as eu la chance de commenter les matchs sur Twitter, 3 nuls, une défaite depuis le début de saison, 0-0, 1-1 et 0-0 également, donc 0-0 contre Châteauroux, 1-1 contre Saint-Brieuc et 0-0 contre Sedan, défaite à Villefranche en Beaujolais 2-0. C'est un début très 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 moyen.
C'est ça, moi j'ai eu la
16e
chance.
16e sur 18e pour l'instant.
J'ai eu la 18. Chance d'assister à la première du Paris 13 Atlético à domicile contre Saint-Brieuc, avec l'ouverture du score historique de Yanis Barca, qui met le premier but de l'histoire du Paris 13 Atlético en championnat national. Alors franchement, ça a été un très beau match. Un match un peu une première mi-temps un peu maussade, la deuxième mi-temps beaucoup plus en faveur du Paris 13 Atlético qui va ouvrir le score par l'intermédiaire de Yanis Barca. Malheureusement, derrière, ça se relâche un peu. Il y a cette égalisation qui survient, ça finit à 1-1. Et c'est vrai que c'est une équipe, cette saison, ça va être très compliqué parce que j'ai assisté également au deuxième match avec.
Et tu les commandes sur Twitter.
C'est
hein,
ça, je les commande sur Twitter. C'est cette saison, on suit le Paris 13 Atlético et on aura l'occasion vous aurez l'occasion en tout cas de suivre tous leurs matchs à domicile.
Donc
à travers
c'était ceux dont 0-0 à domicile et donc 1-1 contre Saint-Brieuc alors qu'ils ont fait 0-0 à Châteauroux et ils ont été battus à Villefranche. Donc,
c'est ça, à Villefranche où ils prennent un carton rouge. Ouais, ils prennent un carton rouge en première mi-temps qui les flingue en fait. Et en deuxième mi-temps, ils en prennent deux. Ça finit à 2-0. Pour le match contre Sedan, j'y étais avec le cher collègue Valentin. On a pris plaisir à regarder ce match. Franchement, il y avait des belles actions de part et d'autre. Une première mi-temps équilibrée, une deuxième mi-temps largement dominée par les hommes de Jean-Guy Wallem. Malheureusement, encore une fois, ça pêche à la finition. En fait, le Paris 13 Atlético, cette saison, ça va être très, très compliqué à la finition. Vous avez des joueurs comme Oumar Sidi Bé, quand ils rentrent, en fait, ils apportent ce quelque chose-là. Mais ça manque, en fait, à côté, ça manque de consistance. Et Oumar Sidi Bé, titulaire, c'est encore un peu trop fébrile. Donc, le recrutement, on sait que ça n'a pas été facile. Hein. Un représentant du Paris 13 Atlético nous le disait la saison dernière. Mais c'est vrai que c'est un recrutement difficile pour le dernier budget de National. Mais c'est vrai qu'offensivement, et la perte de Cissé, d'un des frères Cissé, aussi complique la donne.
Et ce soir, à Bauer, alors, comment on peut entrevoir ce match? Le Red Star fait un bon début de saison.
Très bon début de saison. Red Star, équipe très costaud. Une équipe qui est là pour la montée. Le Red Star, c'est une équipe façonnée pour la montée, entraînée par Habib Bey.
Ah oui.
Une équipe rachetée récemment. Donc ça va être très très compliqué, mais je pense, c'est ce que je disais et là en off, je pense que ce match-là peut être un match déclic. C'est vrai qu'on est qu'en début de saison, mais je pense que ça peut déjà être le déclic. Si tu gagnes ce match-là, je pense que derrière ça ira comme sur des roulettes. Mais si tu le perds, c'est vrai que ça va être très très compliqué, surtout dans une saison où on est à 6 descentes.
Très bon, très compliqué ou ça va être dead?
Très très compliqué.
Ah ouais, c'est parce que tu m'as dit en off, mais bon.
Mais on n'enterre pas, c'est pas on bien peut grave. Pas, on peut pas enterrer le club de notre enfance comme ça, mais c'est vrai que ça va être très très compliqué. Bien sûr.
On en parlera avec Emmanuel Bassoigny, le maire adjoint chargé des sports et de la jeunesse, qui est parti accompagner l'équipe du Paris Atlético là-bas au Stade Bauer.
J'espère qu'il leur portera
chance. Il nous en parlera donc la semaine prochaine, puisqu'il sera notre invité avec le président de la section tennis de table du Paris 13. Je voudrais qu'on termine sur les Coupes d'Europe, parce que Stéphane l'a abordé. Une victoire, une défaite. Paris qui bat la Juventus 2-0. Marseille qui bat la Juventus 2-1, pardon. Et Marseille qui est battu à Tottenham 2-0. Messieurs, vous en pensez quoi?
Je vais parler de Marseille. Je vais laisser Eladj faire
la logique
Paris Saint-Germain.
Respecter ce match.
Même si je sais que Eladj boue de parler de l'OM, mais je veux parler du match de l'OM.
Alors, parce que je vais te dire, je vais parler du match de l'OM.
Une mi-temps bien, une mi-temps moins bien.
Non, pas une mi-temps moins bien.
Non, franchement, de l'OM, en tout cas, 60 minutes, je pense. En tout cas, il était dans le match jusqu'au rouge. Il était dans le match. Mais avec Marseille, c'est toujours ça. C'est pas l'expérience, parce qu'il se prend un rouge. Ça, c'est le manque d'expérience. Tu ne peux pas, en match de Ligue des Champions, t'es bien dans le match. Le joueur, même si c'est pas sûr qu'il marque, et même s'il marque, vous pouvez revenir au score.
Oh, c'est rouge, sûr qu'il marque. Paul Lopez,
c'est vrai que Sergio Ramos.
Paul Lopez, une frappe cadrée, c'est
Sergio Ramos, il prenait rarement les rouges. Et pourtant,
je sais pas. Je sais pas. Mais là, en tout cas, se prendre un rouge comme ça, franchement, et pénaliser l'équipe, et là, c'est la défaite assurée. Parce que contre Tottenham, quand même, vous pouvez oublier, vous partez pas favori. Et en vue du match, on a vu que vous arrivez à leur tenir tête. Là, le carton rouge, c'est vraiment. Mais bon,
je pense que le tournant de ce match-là, au-delà du carton rouge qui c'est vrai, est le premier tournant. Le second tournant, c'est l'action ratée d'Amin Harit, en fait. Quand on est à 0-0, on est à 10 contre 11, t'as une action comme ça, Amine, t'as pas le droit de rater, tu lèves la tête, tu te concentres et tu marques. Mais comme le disait Eladj, en fait, c'est ça le problème avec l'OM. Et moi, c'est ça qui me fait peur cette saison en Ligue des Champions. J'espère que ce sera pas comme l'an dernier en Ligue Europa, où les matchs, on n'était pas si mauvais que ça dedans.
Oui,
tu le disais souvent, Philippe, l'année dernière, où à la fin, tu prends pas les points. Et quand tu prends pas les points, t'es moqué, t'es éliminé. Et cette saison, attention, il y a le Portugal qui revient à l'indice UEFA derrière fort. Donc aux Marseillais de faire le travail contre Francfort.
Bon, pour Paris devant la Juventus, 2-1, victoire logique. Ouais, Paris
victoire
a bien
logique
maîtrisé.
Parce que franchement,
ça a pu faire 3-1.
Non. Normalement ça fait 4-0.
Ouais, ouais.
Moi franchement j'ai vu honnêtement, j'ai regardé, je me suis j'ai préféré regarder le match de Tottenham que le match du PSG, honnêtement. Le match du PSG c'était 10 minutes, ils ont accéléré en fait, ils ont accéléré deux fois et ça a fait deux buts. Ils ont accéléré deux autres fois et ils ont raté. J'ai pas envie de dire l'immanquable, mais en tout cas normalement ça finit au fond des filets. Donnarumma qui sort n'importe comment.
Oui,
franchement, on est en Ligue des Champions.
Malheureusement,
là, on arrive,
ça, ça arrive assez souvent maintenant pour Donnarumma. Hein.
Surtout en Ligue des Champions, c'est ce qui me fait peur. Moi, c'est pour ça que j'étais pas d'accord avec Donnarumma. J'étais un peu sceptique, etc. Maintenant, franchement, Keylor Navas.
Moi,
en tout cas, je suis plus serein qu'en Keylor Navas et dans les cages en Ligue des Champions que Donnarumma. Donnarumma,
il y a Thomas lui qui hoche la tête. Il y a une deuxième bataille qui arrive, la Philippe. Nous, on s'écarte et on regarde.
Moi, je suis très calme. Moi, je suis très calme. Moi, je suis d'accord avec Galtier qui a dit en après-match une vérité, c'est que il a fait une faute. Oui, comme d'autres joueurs peuvent en faire une. C'est le gardien, donc oui, ça cause un but. Je suis d'accord que c'est impardonnable. Mais il ne faut pas oublier que 2-3 actions après, il sort deux parades qui allaient au fond.
Il sort deux parades de la Juve.
Mais l'arrêt est la sortie est impardonnable. Je suis d'accord. Après, on l'a vu.
Mais tu vois, je préfère même qu'il ne fasse pas ces deux jolis arrêts, mais qu'il ne fasse pas de gourdes comme ça, en fait. C'est ça. Oui. Déjà, le manque de confiance, quand tu sais que le gardien n'est pas en confiance, tu vois, dès que la balle elle arrive au pied, là, il presse beaucoup plus. Or que d'habitude, l'attaquant ne presse pas autant parce qu'il se dit le gardien va dégager. Mais dès que c'est Donnarumma, il peut faire une boulette, il y a une chance sur deux qu'il fasse une boulette. Moi, je regarde, je me dis, bon, là, c'est quoi? But contre le camp, c'est comment? Je suis pas tranquille. Le PSG, pour moi, ils ont pas fait. D'habitude, en premier match d'ouverture, ils nous en mettent plein la vue. Tout de suite, ils arrivent avec un 4-0, 3-0, n'importe qui. Hein. Il est tabasse.
Voilà, c'est la Juve,
à domicile,
quand même.
Etc. C'est la Juve, mais la Juve a été piteuse.
Bah oui,
ils ont vraiment été très nuls. Non, franchement, je suis la Juventus. Je regarde tous leurs matchs. Là, franchement, le match qu'ils ont fait, c'était
faut voir leur match hier contre la Salernitana. La Juve, c'est plus la Juve. Ça n'existe plus, la Juventus.
Ouais. Par contre, hier, ils se sont fait voler.
Le but de Milik,
je comprends pas.
Arkadiusz, mon chouchou.
Ah non, là, franchement, c'était du n'importe quoi. Le sosie de Chiesa, on l'appelait comme ça, en tout cas, du moins. Le sosie de Chiesa, l'arbitre a plombé la fin de rencontre, franchement. Ouais. Or que c'était une victoire méritée de la Juventus.
C'est dommage, il y a la VAR. C'est dommage. Hein. On amène la VAR pour corriger ce genre d'erreur.
Non, mais même.
Mais tu regardes qu'un angle, tu regardes pas l'autre. Il y a deux angles dans le football. On sait bien qu'un terrain, c'est long. Donc voilà, quoi.
Alors en tout cas, on aura Haïfa PSG donc le 14, c'est mercredi, et puis Marseille-Francfort demain à 21h, on en parlera la semaine prochaine de ces
matchs risqués, hein, classé à 5/5 au niveau de la dangerosité. Attention à ce qui va se passer demain, ça va être un match très très dangereux.
Et aussi, information de dernière minute pour le Paris Saint-Germain, le Cup Ultra ne se déplacera pas.
Qui proteste,
il vaut mieux.
Kimi, qui est souvent sifflé là-bas, donc il y a aussi cette protestation.
Il a très bien répondu en conférence de presse.
Alors Stéphane en parlait, carton plein en tout cas pour les clubs français en Ligue Europa. Rennes qui va gagner à l'Arnaca 2-1, Nantes qui bat l'Olympiakos 2-1, et puis Monaco qui va gagner à l'Étoile Rouge de Belgrade 1-0. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas aussi bien commencé.
Surtout quand tu vois des équipes comme Nantes, ça fait plaisir.
J'ai adoré voir Nantes.
J'ai kiffé Comboiré qui était franchement super type. Ça me change de Marseille, franchement.
Moi qui est Nantais, ça fait. Ça fait terriblement plaisir de voir le FC Nantes à ce niveau, de voir les tribunes aussi remplies avec autant d'enthousiasme. Et le match était incroyable. Le but,
c'était l'équipe qui avait la réputation de faire du beau jeu, Nantes.
Après, malheureusement pour Nantes, attention, je pense qu'il va falloir choisir entre la Ligue Europa et la Ligue 1 cette saison. Il y a Camboré encore qui le disait hier en conférence de presse. On va pas pouvoir faire les deux compétitions. Quand tu gagnes en Ligue Europa, c'est compliqué d'enchaîner en Ligue 1. Donc il y aura peut-être ce truc du club français qui.
Il y a eu un sérieux souci de recrutement. Sérieux souci de recrutement pour une équipe comme Nantes qui revient en Europe. Comboiré, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il l'a dit en conférence de presse, il y a eu un sérieux souci de recrutement.
Après, tu gardes Blas, tu ne perds pas le gardien, Lafond.
Oui, mais c'est que tu ne perds pas, mais il faut recruter. Et là, ils ont gagné la Coupe de France. Ils sont en Europa. Ils jouent la Coupe d'Europe. Franchement, tu es obligé de recruter.
Mais c'est pas faux que le fait de garder Blas et Lafond sont de très bonnes choses quand même pour le club.
Alors, on aura donc Rennes-Fenerbahçe à 21h, Karabakh-Nantes à 18h45 et Monaco-Ferencvaros, donc cette semaine, 18h45 aussi. Et puis en Ligue Europa Conférence, nul entre Nice et puis Cologne, 1-1. Vous qui êtes souvent à Nice, messieurs, ça va vous interpeller. Nice qui jouera le Partizan, donc au Partizan de Belgrade cette semaine à 21h. On peut quand même déplorer les très graves incidents.
On peut déplorer, mais là, je suis ici pour parler de foot.
Oui.
On peut déplorer leur niveau,
surtout. Oui, bien sûr.
C'est honteux.
Est-ce que ça n'a pas un petit peu aussi déstabilisé
pour ce match-là,
joueur,
oui.
L'équipe,
mais le début de saison.
Oui.
Le début de saison, il n'y a pas eu des incidents tous les matchs.
Non.
Franchement, il y a de quoi. Honnêtement, il y a de quoi. Lucien Favre, il connaît. Il est chez lui et je ne comprends pas pourquoi la mayonnaise ne prend pas. C'est décevant.
Mais...
franchement, en plus, là, on a un retour. Maintenant, on a un retour là-bas de l'or, un duo de feu qui ont fait feu à Montpellier. Enfin, là, je me dis normalement, je sais pas. Hein.
Mais moi, je vais vous le dire pourquoi la mayonnaise elle prend pas. C'est qu'il n'y a pas de direction sportive claire dans ce club.
Tu recrutes, c'est pour ça.
Non, mais tu recrutes pour recruter. Au début, on était parti sur des jeunes potentiels qui peuvent éclore. Ensuite, on est parti sur des anciens joueurs de Ligue 1 qui vont revenir faire la fête, comme Nicolas Pépé. On joue avec Dante derrière. Dante, je suis désolé. Le respect que j'ai pour ce monsieur, c'est fini, Dante, le haut niveau. Faut faire autre chose, monsieur. Pensez à un autre sport. Reconvertissez-vous. Non, même pour le bien de sa carrière à lui, il n'y a aucune direction sportive claire dans ce club-là. On a. Le directeur sportif qui est parti en début de mercato alors qu'il devait partir à la fin du mercato, finalement il est parti avant. Ça va pas à Nice. Et ce début de saison, il est, pour pas dire qu'il est peut-être pas catastrophique, mais il est très très inquiétant pour les hommes de Lucien Favre. Et Lucien Favre, va falloir faire attention à lui. Va
c'était la relation d'ailleurs du directeur sportif et qui était remis en cause avec Galtier. C'est ce qui avait poussé Galtier aussi à se diriger de plus en plus vers un autre club. Et le Paris Saint-Germain a sauté sur l'occasion, ce qui a été un bon recrutement. Mais pour revenir sur les incidents à Nice, c'est. Malheureusement, c'est
ça devient fréquent, malheureurement.
Fréquent,
ça commence
c'est
à.
Une
ouais.
surprise, surtout ah oui. avec les déplacements. Bah là, pour le
il
match,
paraît qu'il y avait des anciens du PSG qui étaient avec Nice. Ouais. Alors, c'est fou, quoi.
Et il y a bah, le
des ultras qui se sont fait bannir, quand même.
Voilà, c'est des mecs de Boulogne. Hein. C'est pas voilà. des.
Oui,
ils
oui,
sont
oui,
pas
oui,
de chez nous. Hein.
Ah, non,
mais. Mais ouais, j'ai un ami qui suit tous les matchs de Nice, qui est journaliste là-bas pour BFM, et qui disait que lui avait décidé 2 heures avant le match de ne pas y aller parce qu'il sentait que ça allait. Que ça allait se dépasser, que ça allait partir en vrille. Et il n'a pas eu tort parce qu'il y a un ami qui l'a appelé. Il a dit là, c'est un champ de bataille. Mmh. C'est voir un match de foot aujourd'hui à Nice. Et quand il y a des déplacements des clubs qui sont voilà, des supporters qui sont très chauds comme les Allemands, les Turcs, c'est la guerre en fait.
Oui, mais pourquoi foot, parce que fait. Nice ne fait pas le ménage comme Lyon n'a pas fait le ménage l'année dernière ou comme le PSG à une certaine époque.
Je sais pas, mais Nice, c'est vrai que c'est en fait, ça se répète. Hein. On
oui,
voit,
oui,
on se rappelle de Nice-Marseille.
L'an dernier, bah oui, Nice-Marseille, et puis ouais.
C'est pas normal, surtout une ville comme Nice qui a autant de caméras, qui a autant de sécurité, qui d'ailleurs prône une sécurité élevée, d'avoir des débordements comme ça. Et que ça...
Mais les présidents le savent, ça, quand même.
Ouais, mais Jean-Pierre Rivière, c'est un président complaisant. On l'a vu l'année dernière, premier match contre l'OM. Le monsieur il est complaisant, faut dire la vérité.
Oui.
Jean-Pierre Rivière est un président complaisant, il est démago à la folie, donc tant que lui sera président de Nice au niveau du
support,
ouais, ça changera pas à ce niveau là
oui.
Mais en plus ce qui est horrible c'est que bah là on est là pour parler de sport, je suis d'accord, ce qui s'est passé dans les tribunes c'est horrible, mais bah nous on vient de Nice et la ville a été détruite.
Ah, d'accord.
La boutique des supporters. Ouais.
Ah bon,
c'est-à-dire que la boutique du supporter a été violentée toute l'après-midi en avant-match. La ville, sur la place Masséna, sur la coulée verte, bon, je vais pas dire toute la ville, mais a été vraiment
saccagée.
Voilà, ça fait mal de voir ça. C'est désolant pour du foot. On est là pour voir du beau jeu, pour voir du ballon. Ouais. De voir ça, c'est ridicule.
Sauf qu'il y a des familles qui n'ont rien à voir avec le foot et qui se retrouvent au milieu de ça. Et que c'est juste du football à la base, c'est du sport. Et
bien
ça n'aide pas en plus quand on veut dire que le football est un sport intelligent que de voir ces scènes-là. Quoi.
Ouais. Voilà, enfin, nous, c'est le jeu qui nous intéresse. Voilà. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir fait un tour d'horizon de cette actu foot et l'actu sportive de ce début de cet été. Hein. Bon, bah, nos amis nous ont posé un petit lapin.
On a pu plus parler de foot et ça nous fait plaisir.
Voilà. Et puis, bah, écoutez, merci. On se retrouve la semaine prochaine. On aura des invités avec le président de la section tennis de table de Paris 13 et puis Eman Bassouani. Émission que vous pourrez retrouver en podcast. N'oubliez pas que c'est la rentrée, donc on peut retrouver toutes les émissions de Mon Paris FM donc tout au long de la semaine, hein, toutes les émissions pour qui c'est aussi la rentrée.
C'est ça, week-end africain.
Voilà,
Paris
c'est
Talk
ça.
Show,
voilà. Donc c'est la
on
vraie rentrée.
On revient pour une très grande saison.
Voilà, vous retrouvez vos émissions favorites. Voilà, merci à Jason d'avoir été aux manettes.
Artiste.
Et puis rendez-vous la semaine prochaine, 19h, 20h30. Bonne soirée à toutes et à tous.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon mot.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Portofino.